match Angleterre-France du tournoi des Six Nations féminin qui a presque rempli le stade de Twickenham, établissant ainsi un record d'affluence pour le rugby féminin avec plus de 60 000 spectateurs et spectatrices. Un peu comme ce soir. Mais évidemment, ces faits saillants sont peut-être un peu l'arbre qui cache la forêt. Parce que si je reviens à mon étude de 2020, si autant d'hommes que de femmes déclarent pratiquer le sport au moins une fois par semaine, quand on regarde dans le détail et quand on regarde notamment qui pratique en compétition ou en loisir, on observe évidemment des différences assez flagrantes. On observe également des différences quand il s'agit de pratiquer le sport au moins deux fois par semaine. Là, les écarts commencent à se creuser. Je pourrais aussi évidemment évoquer les écarts de médiatisation qui persistent. La proportion de sport féminin diffusé sur les chaînes françaises est passée de 3,6% en 2018 à 4,8% en 2021. Donc ça, c'est sur le nombre d'heures de diffusion. Donc la progression est là, mais elle est toute petite. Et puis enfin, je pourrais aussi citer l'omniprésence des violences sexuelles et sexistes dans le monde du sport, illustrée entre autres par le témoignage de Sarah Abitbol en 2020 et plus récemment par l'affaire Rubiales, le président ou l'ancien président de la Fédération espagnole de football. Alors, où est-ce qu'on en est exactement du coup de la pratique du sport par les femmes? Quels sont les freins qui persistent et quelles sont les solutions que nous pouvons toutes et tous mettre en œuvre, qu'on soit citoyen, citoyenne, élu ou membre d'associations sportives? C'est à toutes ces questions qu'on va essayer de répondre avec mes invités. Je vous demande de les accueillir chaleureusement le temps qu'ils montent sur scène avec moi. Merci d'accueillir Cécile Otogali, Mona Pantel, Éric Boutrois et Marion Poitvin. Bonsoir à tous les quatre. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés. Alors, pour vous présenter, je commence par vous, Cécile. Cécile Otogali Mazzacavallo, vous êtes historienne, maîtresse de conférences et enseignante-chercheuse à l'Université Claude-Bernard de Lyon 1. Vous êtes également responsable du parcours de master Egalaps, qui est un master unique en France. Egalaps, c'est pour égalité dans et par les activités physiques et sportives. Vous avez travaillé sur de nombreux terrains de recherche, notamment dans les sports de montagne, sur le sujet de l'escrime, plus récemment sur les questions du football. Et en 2022, vous avez publié un article intitulé « La féminisation du sport fédéral, une affaire de petites et de jeunes filles, point d'interrogation ». On aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis vous êtes... Cécile, ambassadrice de la Fête de la Science pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Merci. Éric Boutrois, bonsoir. Vous êtes anthropologue, maître de conférences et enseignant-chercheur également à l'Université Claude-Bernard de Lyon 1. Vous êtes co-responsable de l'animation thématique pour l'axe innovation au ELVIS. Derrière ce nom intrigant se cache le laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport. Et c'est un laboratoire qui effectue des recherches en sciences humaines et sociales. Vous avez mené, vous aussi, évidemment, un grand nombre de travaux, notamment sur les enjeux d'innovation sociale et technique. Vous m'avez avoué ne pas être un expert des questions de genre, mais je sais que vous collaborez régulièrement avec Cécile et que, de fait, vous avez dû chausser les lunettes de genre à certains moments. Et donc, ce sera très intéressant aussi d'avoir votre regard ce soir. Merci de votre présence. Mona Pantel, bonsoir. Vous êtes une dingue de sport. C'est le nom du blog consacré au sport pardon, que vous avez tenu il y a quelques années. Vous êtes diplômée du master Egalaps, donc vous avez côtoyé Cécile il y a quelques années. Vous avez réalisé vos travaux de mémoire de master sur la pratique du cyclisme par les filles et les femmes. Vous avez d'ailleurs occupé le poste de chargée de mission de développement de la pratique des femmes au comité régional Auvergne-Rhône-Alpes. Après un passage au poste de conseillère d'animation sportive au service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Yvelines, vous avez rejoint tout récemment le ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques pour travailler sur un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, je crois, la question de la lutte contre les discriminations et les violences dans le sport. Merci d'être là, Mona. Last but not least, Marion Poitvin, bonsoir. Vous êtes... Je crois vraiment que c'est un mot qui vous convient parfaitement, une pionnière. Vous avez ouvert des brèches à peu près partout où vous êtes passée, que ce soit dans les secteurs professionnels ou sportifs. D'abord en 2008, vous devenez la première femme à intégrer le groupement militaire de haute montagne. Quelques années plus tard, vous devenez la première femme instructrice à l'école militaire de haute montagne. En 2015, vous quittez l'armée pour intégrer l'équipe des CRS Alpes. Vous êtes la seule chef d'équipe de secours au sein de cette unité spécialisée de la police. En 2018, vous avez fondé Lead the Climb. On aura l'occasion évidemment d'en reparler. C'est devenu un club alpin qui propose des formations au leadership et à l'autonomie dans les sports de montagne pour les femmes. Vous avez également publié en 2022 un livre que je recommande chaudement à notre audience et qui est disponible au stand de la librairie Garin. Je fais un peu de publicité à l'entrée dans le hall. C'est un récit autobiographique donc, qui s'appelle « Briser le plafond de glace » qui a été publié aux éditions Guérin-Paulsen. Franchement, je l'ai dévoré pour préparer la table ronde. Et vous y racontez votre parcours, les obstacles que vous avez rencontrés et puis évidemment toutes les prises de conscience successives que vous avez vécues au travers de vos expériences. J'ai hâte d'entendre vos témoignages. Merci d'être là. Alors, avant de lancer cette table ronde et d'entendre nos experts et expertes, on voulait vous proposer de rentrer dans le sujet en regardant un extrait d'une série documentaire qui s'appelle « Toutes musclées », dont le pitch est « L'histoire du sport au prisme du muscle féminin », tout un programme. C'est une série documentaire qui a été réalisée par Camille Jusa et qui est coproduite par Arte. C'est 4 séquences de 15 minutes que je vous invite à regarder. On va en regarder seulement un petit extrait pour démarrer. Et c'est une série documentaire qui fait dialoguer des universitaires, des sportives et qui mélange des témoignages, des images d'archives. Je vous propose de découvrir cet extrait de l'épisode 1 intitulé « Course d'obstacles ».
T'as des biceps, tu ressembles à un garçon, t'as beaucoup trop d'épaules, beaucoup d'hommes, d'ailleurs ça vient beaucoup d'hommes, hein, les commentaires souvent, t'es plus musclé que moi, oh là là, j'aimerais pas être avec une fille comme toi vu ta carrure, j'aurais peur que tu me casses la tronche, entre guillemets, pour être poli.
Il y a eu cette période où on me confondait avec un homme, où on me disait que j'étais trop musclée, où on me disait elle peut pas sortir avec un mec parce qu'un mec ne veut pas de ça.
Très longtemps, on m'a traité de garçon manqué. Alors au début, vraiment, je prends ça comme un compliment. Ah, c'est cool. Je suis pas tout à fait un garçon, mais je suis mieux qu'une fille quand même. Aujourd'hui, quand les gens me disent que je suis un garçon manqué, je leur réponds bah non, en fait. Je suis une femme très réussie, je suis certainement pas quelqu'un de manqué. Au contraire.
En fait, l'histoire des sportives, c'est l'histoire d'un combat. C'est l'histoire d'un combat permanent.
Aujourd'hui, il y a le sentiment partagé, plus ou moins, oui, que les hommes et les femmes seraient à égalité. Or, concernant le monde du sport, on est loin de l'égalité et on est loin d'une égale présence des deux sexes à tous les niveaux dans les pratiques sportives.
L'émergence et la structuration des sports modernes, c'est un processus qu'on peut identifier à peu près dans la seconde moitié du 19e siècle en France. Ça démarre un petit peu plus tôt en Angleterre. D'abord des sociétés, des clubs, progressivement des unions, puis les premières fédérations de ces sociétés. C'est dans cette même période, en fait, qu'on trouve des traces des femmes sportives. Il ne faudrait pas croire que les femmes pratiquent à l'identique que les hommes. Effectivement, on va inviter les sportives à faire du sport, mais sous condition de modération de l'intensité de leur effort, sous condition de discrétion et puis sous condition d'esthétique.
La grâce, la souplesse, l'élégance, l'esthétisme, etc., etc. Ne soyez pas trop musclé, ne soyez pas trop viril, ne soyez pas trop performante. Faites du sport, mais surtout ne vous virilisez pas. Et donc, très vite, certains sports dits de tradition masculine vont leur être interdits.
Après, elles vont faire quoi? Les femmes, elles vont faire des gymnastiques, mais des gymnastiques surtout du haut du corps. La préoccupation, c'est les mères. Puisque les bonnes mères feront des bons petits-enfants qui font des bons soldats. Et ou une belle femme, une femme séduisante qui va avoir un pouvoir de séduction.
Le sport, c'est le monde par excellence qui a été créé pour leur apprendre à être des hommes. À la fin du 19e siècle, quand Pierre de Coubertin a été intéressé par le monde du sport, c'est pas par hasard non plus. C'est après la défaite de 1870, on n'a pas été capable de gagner cette guerre, on est trop fragile, il faut se renforcer. Et il tombe sur le sport, qui est donc l'apprentissage de l'autodiscipline, de la maîtrise de soi.
À ce moment-là, tout est fait, en fait, pour que les sports restent un bastion de masculinité qu'il faut le plus possible éloigner des femmes.
Le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
Et donc arrive Alice Mia, qui va mettre la pagaille un peu dans tout ça. Elle crée des organisations non mixtes, uniquement féminines, où seules les femmes peuvent adhérer pour pratiquer, puisqu'on leur interdit dans les autres.
Alice Mia, c'est la grande dirigeante internationale du sport des femmes qui a été confrontée à toutes les résistances et les freins médicaux, politiques de l'époque.
Elle va mener ce mouvement-là au plan international. Et donc, en 1921, elle va participer à la création de la Fédération sportive féminine internationale. Donc, c'est vraiment le développement du sport pour les femmes, par les femmes.
Les associations traditionnelles masculines vont prendre peur. Comment ça? Les femmes créent des choses à côté? Elles vont devenir indépendantes de nous? On n'aura plus la mainmise? Elles vont décider de quelles épreuves elles ont le droit de faire, de comment elles veulent s'habiller? Non, mais c'est pas possible. Et donc, elles vont réintégrer, vont accepter les femmes. Mais attention, pas à n'importe quel prix, en décidant pour elles des règlements et donc de ce qu'elles ont le droit de faire, pas faire, de comment elles doivent s'habiller ou pas.
Lors de ces Jeux Olympiques de 1928 à Amsterdam, la course est extrêmement rapide. Il se trouve que le record du monde est battu par Lina Radke en 2 minutes 15 et quelques. C'est un temps qui marque l'histoire de l'athlétisme des femmes. Très vite, cette course va susciter des polémiques, des critiques dans toutes les sphères sportives, médicales et médiatiques. Il va être dit que toutes les femmes n'ont pas fini la course, qu'elles se sont effondrées avant la ligne d'arrivée et qu'elles étaient dans des états qui auraient pu mettre en danger leur santé.
Elles arrivent effondrées, mais comme on voit aujourd'hui arriver les marathoniens, hommes marathoniennes, épuisés par des efforts très longs ou d'autres longueurs de course d'ailleurs. Et donc, c'est pas beau à voir, disent certains journalistes. Donc, que fait l'institution sportive? On est en 1928, au jeu de 1928. Eh bien, on interdit l'épreuve du 800 mètres pour les femmes, qui va être réintroduite quand? Non, mais des décennies après, en 1960. Le marathon, il est officiellement aux Jeux Olympiques en 1984, un siècle par rapport aux hommes. Le lancer du marteau, autorisé en France pour les filles en 1987. C'est pas de la préhistoire dont je parle, c'est hier, c'est même aujourd'hui. Le saut à ski, 2011 pour les JO de 2014. Le dirigeant de la Fédération internationale de ski disait que c'était dangereux pour les femmes. Ah bon? Et pour les hommes, ça serait pas dangereux alors? Donc, il y a comme ça tout un ensemble de résistances.
Je vous ai dit que c'était un extrait, ça coupe un peu brutalement. Mais c'est déjà un extrait qui pose en gros tout le contexte et tout le cadre de notre discussion. On entend Cécile y rappeler au début que finalement les femmes font du sport depuis très longtemps, mais que pour autant au début du XXe siècle, c'était en tout cas un bastion masculin. On voit qu'il y a des disciplines qui ont été fermées aux femmes pendant très longtemps, ou en tout cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Mais du coup, si on revient à notre époque, Eric, vous avez collaboré avec des personnes qui ont fait, qui ont contribué à l'enquête nationale sur la pratique sportive des Français. Aujourd'hui, c'est quoi la situation en France de la pratique sportive et notamment des femmes?
Merci. Oui, on a eu la chance dans le laboratoire d'avoir un collègue, Brice Lefebvre, qui est dirigé pour le ministère l'enquête décennale. Donc tous les 10 ans, on fait une très grosse enquête en France sur les pratiques sportives des Français. Vraiment très solide. Donc c'est un très bon baromètre. Alors c'est que tous les 10 ans, mais ça nous donne une idée de l'évolution. Tu l'as rappelé d'ailleurs, hein, c'est le premier chiffre que tu citais, pour le remettre un petit peu en perspective derrière, en disant voilà, on est en parité au premier regard. Et quand on commence à zoomer, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Alors oui, on voit décennie après décennie que ça grignote un peu sur un certain nombre de domaines, mais que voilà, les choses persistent en termes de barrières. Alors je vais pas vous assommer de chiffres, mais j'en ai quelques-uns. J'ai choisi de zoomer sur des repères de cette enquête-là, sur plutôt des pratiques outdoor ou de montagne qui concernent un peu le territoire dans lequel on est ici. Si on regarde ce qui va être les activités dites de montagne, grosso modo, on va être dans des proportions de 45% de femmes, 55% d'hommes sur un certain nombre de pratiques comme la randonnée en montagne, donc randonnée en montagne, pas la randonnée en général, le ski alpin, un certain nombre d'autres activités de ce type-là. On pourrait dire que finalement, c'est pas si éloigné que ça. Je rappellerai que c'est quand même 10 points, ça fait 10 points de différence entre les deux. Et puis, en fait, comme tu l'as évoqué, donc je vais pas vous assommer de chiffres sur ça. Quand on va regarder après la question en soi de la régularité, hein, c'est-à-dire l'intensité de pratique ou le niveau de pratique, on va voir que, d'un seul coup, les taux de pratique vont tout de suite basculer du côté des hommes. Alors, si on regarde d'autres activités, alors l'escalade, par exemple, alors c'est amusant de regarder l'escalade notamment qui est majoritaire aujourd'hui, qui est l'escalade indoor, hein, donc dans les salles, les SAE aujourd'hui c'est la pratique principale. Eh bien on est dans le même ordre de grandeur, hein, 44% de déclarations, donc enfin, les gens qui pratiquent l'escalade c'est 44% des femmes, l'escalade indoor, et 56% des hommes. Quand on regarde, on a une enquête sur le principal groupe français aujourd'hui en escalade indoor, on se rend compte que chez eux, c'est de l'ordre de 40-60% leur clientèle. Alors, c'est Climb Up pour ne pas le nommer. Mais par contre, quand on regarde à l'intérieur de l'escalade, ce qui se passe du côté de l'escalade de bloc, plus spectaculaire, plus intense, plus engagé, on va dire, corporellement, on le déconstruira, hein, je le dis bien tout de suite. Bah là, on voit qu'on arrive à 25-30% maximum. Et voilà, donc on voit tout de suite les barrières qui remontent. Et si on parle de vélo, on a une éminente sportive à côté. Voilà, le VTT, c'est 25% de femmes, 75% d'hommes. Et puis, voilà, ça fera un écho sur les questions de pratique, de forme. Par contre, dans la randonnée, hein, on entend parler de la marche nordique qui est montée en puissance ces dernières années. Eh bien, je ne vais pas vous étonner, c'est 60% de femmes et 40% d'hommes qui pratiquent la marche nordique. Donc, je redis 45%, 55% pour la randonnée en montagne, et vous avez vu des taux s'inverser. Je ne serai pas plus long sur ces chiffres-là, mais on pourrait les multiplier et surtout voir que quand on rentre dans la randonnée itinérante, donc cette fois-ci partir plusieurs jours, un peu plus technique, avec plus de matériel à emporter, une notion d'engagement qu'on va déconstruire aussi, eh bien là aussi les taux de pratique s'effondrent. Je peux même pas parler de l'alpinisme, Marion, parce qu'en fait l'enquête permet pas d'avoir un grain assez fin pour attraper. En fait, les femmes sont trop peu nombreuses pour qu'on puisse les faire parler. Et on sait qualitativement que c'est un pur bastion de masculinité encore aujourd'hui, même si les choses bougent.
Alors, vous nous avez cité, Eric, des disciplines, pour certaines, qui sont plutôt des pratiques libres. Cécile, vous avez travaillé tout particulièrement sur la pratique fédérale, donc la pratique dite encadrée, ou en tout cas qui donne lieu à une licence. C'est quoi les chiffres, hein, qu'est-ce qu'on peut dire des chiffres et de l'évolution de la pratique sportive des femmes dans ce contexte-là?
Alors, effectivement, Eric vient de parler de la grande enquête nationale qui a porté sur plus de 40 000 personnes et où est défini comme sportif ou sportive quelqu'un qui se considère sportif ou sportive. C'est important de le rappeler. Tous les chiffres qu'a évoqué Eric sont des chiffres sur la base du déclaratif des gens interviewés. Avec Marie-Carmen Garcia, qui est sociologue au sein de notre laboratoire, donc et moi-même, on s'est intéressé, on a regardé les choses du côté cette fois-ci des licenciés sportifs. Donc quelqu'un qui a une licence dans une fédération sportive. C'est à peu près 16 millions de pratiquants et pratiquantes en France. Et on a regardé la répartition de ces licences sportives, donc dans les 113 fédérations françaises, sur une période bien précise qui allait de 2012 à 2017. Et qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé bien le déséquilibre numérique dont parlait Eric, c'est-à-dire que en 2017, et ça a même diminué un petit peu là du fait de la pandémie, hein, du Covid, où on sait que les femmes ont été beaucoup plus pénalisées en fait dans leur investissement sportif. On était donc en 2017 à 38,3% de femmes licenciées, hein, dans les fédérations sportives françaises. Quand on regarde un peu plus les choses, on sait qu'il y a trois types de fédérations, des fédérations olympiques, dont les sports sont aux Jeux olympiques, des fédérations non olympiques et des fédérations affinitaires, multisports, etc. Il y a beaucoup plus de femmes dans les fédérations affinitaires, de type UNSS, FSGT, donc des associations multisports. On est à plus de 50% de femmes dans ces associations, quand on est à 31% de femmes dans les fédérations olympiques. Alors, historiquement, ça s'explique. Et le petit reportage, je vous en ai donné déjà un aperçu. Il y a eu des politiques d'exclusion des femmes durablement en fait dans ces sports-là. Et effectivement, on porte encore aujourd'hui l'héritage en fait de cette histoire-là. Mais il n'y a pas que ça. L'histoire ne suffit pas pour expliquer les difficultés aujourd'hui, le problème de déséquilibre. Il y a aussi des agents socialisateurs. Il y a des éléments en fait, et on y reviendra sûrement tout au fil de cette présentation. Pour finir sur ces chiffres, l'enquête a montré. Et je voudrais aussi évoquer des points positifs. L'enquête a montré, comme Eric le disait, qu'il y a toujours un grand déséquilibre de répartition hommes-femmes suivant les activités. Pour faire simple, les femmes sont plutôt orientées vers tout ce qui relève des activités artistiques, de danse, en fait de travail de son corps ou d'esthétique, voilà. Et d'entretien de son corps. Les hommes sont plutôt investis dans tout ce qui relève de la production de force. Les sports de combat, les sports collectifs, ce qui va vite, ce qui va loin, ce qui va fort, pour reprendre la devise de Coubertin. Et donc là aussi, il y a vraiment encore un héritage historique qui nous colle à la peau et qu'il est important qu'on puisse commencer à déconstruire, je crois, effectivement, au fil du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'est rendu compte que d'abord, aujourd'hui, le nombre de licences dans le mouvement sportif français est dynamique grâce aux femmes. C'est-à-dire que la croissance sur la période qu'on étudie, c'est plus 8,1% du côté des femmes et plus 2,5% du côté des hommes. Donc l'avenir du sport, c'est peut-être les femmes. J'ose le dire. Et surtout, cette croissance, elle était particulièrement forte sur les plus jeunes, sur les jeunes filles justement, sur la classe d'âge des 5 à 19 ans, où là, il y avait effectivement de façon très significative un investissement plus massif qui se faisait. Donc, il y a peut-être effectivement des signes d'espoir qu'il faudrait maintenant travailler peut-être un peu plus, et on va sûrement en parler.
On va en reparler, évidemment. Par rapport au portrait que vous nous avez dressé, on entend qu'il y a toujours des inégalités, même s'il y a des signes de se réjouir et des signes d'espoir. Je voudrais qu'on puisse revenir sur les sources d'inégalités, ou en tout cas, qu'est-ce qui explique qu'on observe encore des retards, ou en tout cas des décalages dans certaines disciplines. Peut-être, Mona, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience au sein de la Ligue régionale de cyclisme d'Auvergne-Rhône-Alpes? Qu'est-ce que vous avez pu constater? Vous avez notamment travaillé avec les jeunes filles, vous avez réalisé une enquête auprès d'elles. C'est quoi les obstacles que vous avez détectés au travers de cette enquête?
Alors le cyclisme, c'est un très bon exemple parce que du coup, pour reprendre ce que disait Cécile, c'est un sport où on va vite, on va loin, on va fort, et c'est un sport qui est très très marqué par les inégalités femmes-hommes. Voilà, historiquement ça s'explique aussi, et donc aujourd'hui on est à peu près à un ratio de 11% de femmes péniblement au niveau des licences, et donc le reste de licences hommes. Et en fait, ce ratio-là, il se retrouve à la fois au niveau national et à la fois dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est le comité Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le plus gros comité de France en ce qui concerne le cyclisme, en termes de licenciés, de dynamisme. Et c'est aussi un comité qui a été relativement, on va dire, innovateur par rapport à la pratique des femmes voilà, dans le cyclisme. Donc une fois qu'on a dit ça, moi c'est vrai que enfin, je me suis intéressée un peu à essayer de comprendre d'où exactement on partait et surtout à essayer de définir quelles étaient les carrières et les caractéristiques des femmes cyclistes en compétition, parce que ça c'est aussi important par rapport à ce que disait Eric, là on est vraiment sur une pratique compétitive institutionnelle et forcément ça on sait aussi que c'est un frein à la pratique des femmes de manière générale encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est on va dire il faut franchir un certain nombre de barrières pour faire le choix, conscient ou pas d'ailleurs, de faire du cyclisme en compétition. Donc moi je me suis vraiment intéressée à la pratique sur route, qui est un peu la pratique traditionnelle voilà, dans le cyclisme, sachant qu'on a beaucoup de disciplines, il y a aussi le VTT, le BMX notamment, et la piste. Mais voilà, moi j'étais vraiment sur la route. Et donc j'ai cherché un peu à justement à rencontrer un certain nombre de coureuses et de savoir comment elles en étaient arrivées à choisir le vélo, parce que du coup c'est pas forcément un choix qui apparaît comme étant naturel d'un point de vue on va dire de la socialisation et des stéréotypes de genre, et surtout qu'est-ce qui faisait que aujourd'hui elles étaient toujours en train de pratiquer le cyclisme et qu'est-ce qui les maintenait dans la pratique. Et donc pour aller très vite, donc j'ai fait moi à la fois des entretiens avec des coureuses de haut niveau, donc qui étaient à l'époque, donc c'était il y a 5 ans, en division nationale 1, donc le plus haut niveau en France, et à la fois des entretiens aussi, enfin des questionnaires avec des jeunes filles, donc cadettes, minimes cadettes, donc entre 12 et 15 ans, on va dire, que nous, on avait au sein du comité pour savoir voilà, comment elles en étaient arrivées au vélo. Et ce qui ressort le plus, ce qui n'est pas du tout surprenant quand on connaît un peu les éléments de sociologie, on va dire, du sport, c'est que forcément, l'entrée, elle se fait quasiment en majorité par un intermédiaire de la famille, et donc exclusivement par des personnages masculins, donc le papa, le frère, parfois même le grand-père. Voilà, c'est quasi systématique que c'est vraiment par cette entrée-là. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, pour les garçons, en fait, on va les inciter, on va leur proposer directement, par exemple, de faire du foot, du rugby, du vélo. Elles, on ne va pas leur proposer, elles vont essayer plein de sports avant, et en fait, après, elles vont dire « Non, mais je veux vraiment faire du vélo, donc maintenant, il faut m'inscrire. » Mais ce n'est pas forcément un choix qui se fait directement. Et ça, Christine Messon, elle l'a montré dans la boxe, elle disait bien que, en fait, les papas, ils ne vont pas proposer directement à leur fille de faire de la boxe. Mais ça va finalement se faire parce qu'elles vont voir que leurs frères en font, et ça a l'air vachement sympa, du coup, elles se disent qu'elles aussi, elles peuvent en faire. Donc ça, c'était l'élément le plus important. Et après, l'autre élément, chez les plus jeunes notamment, c'est qu'en fait, la famille, elle est hyper importante parce qu'elle est omniprésente. Donc c'est-à-dire que sur les 40 réponses que j'ai eues dans mon questionnaire sur les minimes cadettes, à la question « Est-ce que vos parents vous accompagnent sur les courses tous les week-ends » 98% répondent oui. Et donc les courses tous les week-ends, c'est vraiment... voilà, on va dire de mars à août, c'est quasiment tous les week-ends. Donc c'est un investissement financier, temporel, extrêmement important, et qui du coup conditionne aussi les jeunes filles à continuer dans la pratique, parce qu'en fait, il manque de structure, il manque de club. Et du coup, à un moment donné, si les parents ne suivent pas, et malheureusement, elles ne sont pas en mesure de continuer et donc de s'entraîner comme il le faudrait, on va dire.
Ok. Donc on entend là dans votre discours, un des obstacles, c'est le fait qu'on pousse pas spontanément les filles vers certaines disciplines, et puis il y a des enjeux d'accompagnement, d'encadrement que vous avez évoqués. Marion, vous, niveau obstacle, vous êtes pas mal, vous en avez rencontré un certain nombre dans votre vie professionnelle, mais aussi évidemment dans votre parcours d'alpiniste en tant que femme sportive, donc dans un milieu, Eric l'a dit, qui est vraiment un des bastions de masculinité. Tous ces obstacles, vous les redétaillez dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous partager peut-être quelques anecdotes qui illustrent quelques-uns de ces obstacles, de ces freins auxquels sont confrontées les femmes qui voilà, investissent des bastions de masculinité.
Des obstacles, il y en a eu, mais finalement, ça s'est fait quand même. Finalement, j'ai quand même pu être la première femme au groupe militaire d'haute montagne. C'est un groupe d'élite de l'armée de terre. C'est une dizaine d'alpinistes militaires qui sont payés à s'entraîner et à partir en expédition à l'autre bout de la terre. Voilà. Oui, ça existe. Donc, leur job, c'est de skier, de grimper, de s'entraîner. Voilà. Tu fais que ça du lundi au vendredi. C'est un peu le métier de rêve. Alors, là, l'obstacle qui est arrivé, le premier, on va dire, c'était que je suis restée 3 ans et demi dans ce groupe-là parce que c'était pas tenable. Alors que la moyenne des alpinistes, il reste 10 ans. Voilà, je pense que là, il y a eu un vrai obstacle. Alors pourquoi j'ai fait que 3 ans et demi? Bah, je l'explique évidemment plus en détail dans mon bouquin, mais en gros, bah, pour la faire courte, bah, vous avez vu, hein, ça a été créé dans les années 70. Moi, je suis arrivé en 2008, donc il a fallu entre 30 et 40 ans pour qu'il y ait une femme qui arrive. Donc, je suis la 85e alpiniste à rejoindre ce groupe. Je suis la seule femme. Je suis dans l'armée de terre. Je suis dans un groupe d'élite. Bon, bah là, on a tout dit. Hein. Donc là, le harcèlement sexuel, par exemple, je pense que moi, toutes les femmes avec qui j'ai partagé, j'ai échangé, qui travaillent dans des milieux professionnels exclusivement masculins, comme c'était mon cas, t'es forcément confrontée à ça à un moment. Alors ça veut pas dire que tu te prends des mains coincées contre la photocopieuse. Bah déjà, nous on n'avait pas de photocopieuse, c'était pas notre job. Mais c'est juste, voilà, c'est quand tu te fais draguer sur ton lieu de travail de façon lourde et répétée alors que t'as dit non, ça s'appelle du harcèlement en fait, tout simplement. Et moi à ce moment-là, j'ai entre 23 et 25 ans et j'arrive pas à mettre ces mots-là sur ce qui m'arrive. Ce que je sais, c'est que c'est lourd et que du coup, faut que je trouve une solution quoi. Donc je vais quitter un métier de rêve dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir rentrer. Une chance, oui et non, parce que pour rentrer là-dedans, j'ai eu des alliés, donc ça s'appelle comme ça. J'ai appris plein de choses en suivant le master, on en reviendra. Et donc j'ai bénéficié de discriminations positives, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un commandant, il s'est dit tiens, il y a des femmes qui font de l'alpinisme, mais avec un objectif, comme vous l'avez précisé, de haut niveau, pas juste se balader, aller dormir, monter, boire un thé en cabane et faire une séance de yoga. Non, vraiment, le but de notre groupe d'alpinisme qui a été créé en 2005, c'était de faire du haut niveau, et là, le commandant s'est dit mais pourquoi pas prendre une femme, après tout, il n'y en a jamais eu. Donc j'ai bénéficié de discriminations positives parce que déjà à 23 ans, il y a un décalage énorme entre les meilleures femmes d'alpinisme dont je faisais partie et les meilleurs hommes. L'écart, il est énorme au niveau du nombre de courses difficiles réalisées en montagne. Donc j'étais parmi les meilleures femmes. Et pour autant, j'étais très très loin du niveau des hommes. Mais ça, le commandant, il le savait. Et il m'a dit, bah, par contre, nous, on est là pour te donner les moyens humains, financiers, matériels, pour que tu puisses progresser, rejoindre le niveau, parce qu'on pense que tu as le niveau et le potentiel. Donc ça, c'est super. Mais derrière, en fait, le problème, c'est quand c'est pas bien expliqué, bien amené, tout ce que tu vas faire après, pendant tes 7 ans de l'armée, c'est, ouais, mais de toute façon, elle a été prise juste parce que c'est une femme. Ouais, c'était la meilleure du moment, accessoirement, mais en fait, non, c'était une femme. Voilà, ça se réduit à ça. C'était deux petits exemples rapidos, mais je vais pas faire tout maintenant.
Mais vous avez été confronté à d'autres difficultés. Enfin, donc là, on évoque la question du sexisme, évidemment, et puis de l'accompagnement quand on intègre, même si, voilà, comment on parle autour de la discrimination positive. Vous avez aussi été confronté à des enjeux en lien avec vos sponsors, avec...
Oui, pour dire deux mots, ouais. Oui, parce que celui-là, il était pas mal. C'est vrai que j'avais des partenaires, mais j'ai envie de les nommer, en fait, maintenant.
Libre à vous.
Pas dire
libre,
non, mais y en a un qui s'appelait Petzl et l'autre qui s'appelait Millet, donc c'est des belles marques françaises. J'étais très fière de travailler avec ces marques et pendant 6 années, parce que je faisais accessoirement partie, voilà, j'étais dans les meilleures alpinistes femmes françaises du moment. Et puis quand j'ai annoncé ma grossesse à Petzl, le team manager français a dit bah écoute, comme t'es enceinte cette année, on va te baisser un peu ta dotation parce que bon, t'auras pas besoin de matériel, tu vas pas l'user. Ok, j'ai pas trop apprécié. À ce moment-là, je suis déjà policière, donc 225-1, la discrimination. J'avais lu 2-3 trucs dans le code pénal. Pas de bol pour lui, donc je lui ai dit, bah non, là tu peux pas. Et j'ai finalement eu le contrat total jusqu'à la fin de l'année. Puis à la fin de l'année, il m'a quand même sorti de l'équipe en me disant que j'étais plus assez performante. Voilà. Et ça, c'est pas vieux, hein, c'est Denali, qui est là, j'étais enceinte de Denali, qui a 4 ans, donc ouais, c'était il y a 4 ans. Et l'année suivante, Millet sort un clip promotionnel de la marque où on voit des athlètes qui grimpent en cascade de glace, en grande voie, qui courent dans la montagne, voilà, qui font tous les sports de montagne voilà, pratiqués par la marque. Et je vois pas de femme. Enfin, si, je vois une femme qui pratique, donc on en parlait, un sport indoor, l'escalade, en salle, un sport plus aseptisé. Voilà, avec un petit débardeur filmé du haut, c'est très joli. mais voilà, c'est tout ce qu'on voit. C'est la seule femme qu'on va voir. Donc je me permets, je leur dis, bah c'est bizarre qu'il n'y ait pas de femme. Enfin, je veux dire, moi je suis là. ah oui, mais tu étais enceinte, tu voulais pas faire travailler. On voulait pas être accusé de faire travailler une femme enceinte. Encore mieux, encore mieux. non, mais là, ils ont vraiment pas tout compris. En fait, tu peux pas ne pas faire travailler une femme parce qu'elle est enceinte. C'est l'inverse, en fait. Parce que c'est payé, hein, ces journées-là de tournage. Ouais. Et du coup, ça leur a pas trop plu que je leur fasse remarquer ça. Et du coup, j'ai été sortie de l'équipe également l'année suivante. Parce que, quand même, j'allais un peu loin. Voilà.
Okay. Donc ça, c'est aussi un sacré obstacle, évidemment, quand on est sportif de haut niveau, hein, cette question de l'accompagnement des sponsors, des partenaires.
Juste pour finir, du coup, ça fait quand même 5000 euros par an, parce qu'au fait, concrètement, c'est 5000 euros de matériel par an, du matériel neuf, que j'aurais dû toucher encore pendant 5-6 ans, parce qu'en général, c'est, voilà, après 40 ans, tu laisses la place à d'autres athlètes, et c'est très bien, et c'est la part du deal. Mais ça fait drôle quand tu vois d'autres athlètes, hommes, papas, qui ont des bébés la même année que toi. Voilà.
Merci pour ce témoignage édifiant. Eric, vous l'avez dit, vous vous intéressez notamment aux pratiques outdoor. Et quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez parlé de mécanismes d'éviction des femmes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous avez observé dans vos travaux?
Oui, alors on voit qu'il y a des barrières et tu en as cité quelques-unes où on voit donc là, voilà, couper un sponsoring, c'est enlever des ressources économiques, voilà, mettre des conditions de travail avec du harcèlement, c'est produire à un moment donné une sortie de l'activité ou d'un collectif qui pourrait être facilitant par ailleurs. Et en fait, ça, c'est des choses où on est déjà rentré et on est mis dehors, ou on est remis à sa place. C'est un peu ça que ça veut dire. L'éviction, c'est même pas commencer à rentrer. C'est vraiment le mécanisme encore d'avant. Et en fait, on le comprend en filigrane dans ton témoignage. C'est-à-dire que on voit qu'il y a tellement de barrières qui font que, un, on va pas le proposer aux enfants d'aller vers cette activité-là. Et puis quand il y a un petit peu des désirs qui apparaissent, on voit que c'est plus compliqué et que, bon, bah, à un moment donné, quand je dis on, c'est la famille, c'est les proches, c'est des entraîneurs qui vont consciemment ou inconsciemment, en fait, remettre ces barrières. Mais plein de moments, en fait, là, ici, on parle des femmes. Les femmes vont, quelque sorte, s'auto-exclure. Alors, c'est pas pour faire reporter la responsabilité sur les femmes qui ne rentrent pas dedans. C'est parce qu'en fait, il y a des mécanismes incorporés, des stéréotypes de genre qui sont encore extrêmement actifs et une conscience assez lucide de toutes les barrières qu'il faudrait lever pour y aller. Et donc, ça fait qu'on n'y va pas. Et puis on peut aussi des fois rentrer dans l'activité mais ne pas aller aussi loin qu'on voudrait aller, et ça c'est des questions de pratiquer à plus haute intensité, pratiquer plus fortement, aller de l'escalade vers l'alpinisme dont on parlait là. Et même quand on va regarder l'exemple de la randonnée ou de la marche, qui peut sembler une activité très facile d'accès, eh bien dès qu'il va falloir aller seul ou en dormant la nuit dehors, eh bien là va y avoir un effet d'auto-exclusion. C'est non, en fait ça je vais pas le faire, sauf si je suis avec des hommes. On reparlera des pratiques non mixtes sans doute à un autre moment, mais ce mécanisme d'éviction bien pointé, même on comprend dans le film, fait qu'on, en fait, on va s'auto-éloigner dès le départ, pour le dire très rapidement.
Ok. Cécile, du coup, on a entendu qu'il y avait plein d'éléments qui relèvent plutôt des enjeux de construction sociale, et en tout cas qui sont très loin de l'idée reçue qu'on entend parfois, selon laquelle que les femmes, elles font pas de sport parce que ça les intéresse pas, ou les femmes, elles font pas de sport parce que elles sont pas trop faites pour ça. Voilà, on voit qu'on est très très loin de ce sujet-là. On est bien dans des obstacles et des freins qui relèvent de la construction. Est-ce qu'on peut enfoncer le clou sur cette idée et peut-être resynthétiser les différentes formes d'inégalité qui persistent?
Alors effectivement, c'est important de déconstruire effectivement ces opinions, ces représentations qui sortent souvent de nulle part, enfin, si ce n'est de ses propres croyances, et de resituer les choses justement à l'aune des résultats scientifiques. Et donc tout à l'heure, c'était Monsieur le Préfet qui évoquait que la science, c'est l'administration de la preuve. Alors, vous avez bien compris qu'ici, avec Eric, on représente du coup tous les deux le monde universitaire. On ne va pas vous sortir l'ensemble des protocoles et des citations qui nous permettent de tenir les propos qu'on tient. Mais c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que moi, en tant qu'historienne, après avoir travaillé, je ne sais pas, des milliers de pages, en fait, de discours des dirigeants sportifs, que ce soit de la fin du 19e jusqu'à aujourd'hui, j'ai pu effectivement appréhender plusieurs choses. Un, les femmes sont présentes, donc elles ont un intérêt pour les pratiques sportives dans la même temporalité que les hommes, fin du 19e siècle. Mais par contre, à partir du moment où elles s'intéressent à ces pratiques-là, il y a deux façons pour elles d'être classées. Soit elles sont conformes aux attendus de féminité de l'époque dans laquelle elles se situent, et donc elles pratiquent en respectant les codes de la féminité de l'époque, et donc pendant très longtemps, la modération, la discrétion et l'esthétique, être avant tout une belle sportive, pas trop musclées, pas trop performantes. Donc ne montrons pas trop les marques de la masculinisation d'un corps. Et dans ce cas-là, elles sont relativement bien acceptées et elles vont évoluer. C'est les nageuses en 1912, c'est les gymnastes en 1928, c'est les volleyeuses en 1966, etc. Ça avance. Soit elles sont, dès le départ, plutôt transgressives par rapport aux normes de l'époque. Ça veut dire quoi être transgressive, hein? En 1924, ça veut dire, par exemple, vouloir faire du 800 mètres. C'est courir, être transgressive pendant longtemps, jusqu'aux années 80. Il ne faut pas oublier que Catherine Switzer, en 1967, quand elle veut faire le marathon de Boston, elle s'inscrit avec ses initiales. Hein, et puis quand même, après, au bout de 3 km, les organisateurs de la course se rendent compte qu'il y a une femme dans la course. Elle va se faire exclure de la course. Donc voilà, être transgressive, c'est pas forcément être monstrueuse, mais en tout cas c'est pour l'époque le paraître, c'est-à-dire vouloir performer, vouloir être libre et vouloir s'investir dans des activités. Et donc pour ces femmes-là, deux réponses va leur être donnée, soit l'interdiction et l'exclusion par des règlements, d'accord, officiellement, soit la stigmatisation. Et la stigmatisation, ça va des contrôles de féminité mis en place dans l'institution olympique à partir de 1966 et qui va opérer une véritable police du genre, hein, à l'égard des sportives, où on va leur demander de faire des tests de force pour vérifier si c'est bien des femmes, si elles sont trop fortes. C'est suspect. Et on va leur demander de se déshabiller pour vérifier par leurs organes, puis plus tard par leurs chromosomes, puis plus tard par d'autres testeurs, que ce sont bien des femmes. Et aujourd'hui encore, des femmes qui produisent un petit peu plus de testostérone que la moyenne des femmes, d'accord, eh bien, peuvent être interdites à participer à des épreuves. Ça a été le cas de Caster Semenya, qui est hyper androgène. Elle ne se dope pas, elle produit naturellement un peu plus de testostérone, beaucoup moins que les hommes, hein, mais un peu plus que la moyenne des femmes, et elle a dû prendre des médicaments, etc. Alors que quand est-ce qu'on demande aux hommes de donner une preuve, Usain Bolt, il n'a pas plus de testostérone que tous les autres athlètes qui se sont alignés en compétition avec lui, jamais. Donc il y a bien un contrôle du corps des femmes qui est opéré de façon à ce qu'elles restent en fait à leur place et qu'elles performent pas trop. Alors, une fois que j'ai dit ça, et qui est du coup une rhétorique, hein, qui traverse l'ensemble du siècle, et donc qui renvoie les femmes à une injonction soit de faiblesse, et si elles performent, c'est douteux, soit d'esthétique, et si elles sont pas belles, c'est douteux. Alors, si elles sont trop masculines, là, je vous en parle même pas. Aujourd'hui encore, malheureusement, ce type de discours persiste. Et donc moi, maintenant, avec quelques années quand même à étudier ces discours, je vois trois grands registres d'inégalités. Des inégalités d'accès qui ont duré pendant longtemps et qui commencent maintenant à disparaître. C'était le saut à ski jusqu'en 2014, le rugby aux Jeux Olympiques pour les femmes en 2016. Voilà. Aujourd'hui, et à l'Olympiade de Paris 2024, il n'y aura pas une seule discipline sportive interdite aux femmes. Donc on peut dire, les inégalités d'accès, c'est fini. Elles se sont déplacées. Il n'y a plus d'inégalités d'accès pour les pratiquantes, mais il y a encore de grandes inégalités d'accès aux postes de direction, par exemple. Des fonctions dirigeantes, on en reparlera, ou aux postes d'entraîneur. Mais quand même, c'est un registre dans lequel on évolue. Deuxième grand type d'inégalité, et Marion l'a parfaitement illustré, c'est les inégalités de traitement. Alors, c'est le règlement que pendant longtemps on a adapté pour les femmes et qu'on continue dans certaines disciplines à adapter pour les femmes, pensant qu'elles ne sont pas capables d'eux.
Oui. Mona pourrait en parler. Vous me disiez que dans le cyclisme, jusqu'à un certain âge, les filles et les garçons font la même distance, mais à une certaine catégorie, les garçons font 50 km en compétition quand les filles en font 15 ou 20. Donc on instaure, c'était pour illustrer.
Voilà, on a interdit le marathon parce qu'on pensait qu'une femme n'était pas capable de courir 42 km et 125 mètres. Alors que voilà, aujourd'hui, on voit bien que c'est parfaitement possible, elles ne mettent pas leur vie en danger. Donc des inégalités de traitement qui ont amené des adaptations réglementaires, des inégalités de traitement qui les ont amenées à pratiquer dans des tenues particulières. Il ne faut pas oublier que pendant très longtemps, les escrimeuses devaient pratiquer en jupe. Encore, il n'y a pas très longtemps que ça, je crois que c'était en 2011, le club de hand de Metz a demandé à ses handballeuses de jouer en jupe. Et dans le même temps, une enquête a été faite pour mesurer le nombre de fois que les handballeuses utilisaient à replacer leurs jupes, parce qu'en fait, c'était très... improductif pour elles, parce qu'elles étaient mal à l'aise, elles étaient gênées, elles avaient peur qu'on voit leur slip, etc. Et une étude a montré qu'elles passaient beaucoup de temps, en fait, à replacer leurs vêtements. Tout ce temps-là, il ne sert pas à la production de performance. Donc, inégalité de traitement sur les tenues, inégalité de traitement sur les budgets. Marion l'a illustré tout à l'heure avec ses sponsors, mais aujourd'hui, il y a plein de clubs qui ont une section féminine qui a un tout petit budget par rapport à la section masculine. Ouais. Et parfois même, quand la section féminine performe plus que la section masculine à meilleur niveau. Donc voilà, donc des inégalités de traitement comme ça, je pourrais vous en donner beaucoup. Je les ai constatées dans quasiment toutes les disciplines que j'ai étudiées. Et enfin, troisième registre d'inégalité, c'est des inégalités de reconnaissance. Alors là, c'est peut-être le lit du problème. C'est-à-dire que pendant longtemps, et encore aujourd'hui, je crois, et peut-être que le faible nom, voilà, on a quand même peu de monde dans la salle ce soir. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je crois, on considère que les sportifs, finalement, sont un sous-produit du monde du sport. On les compare encore systématiquement aux hommes. Du coup, on dévalorise leurs performances, alors même qu'elles performent très fort, parfois beaucoup mieux que, en tout cas, que beaucoup d'hommes, et parfois dans les mêmes niveaux que l'élite. Je pense par exemple, en surf aujourd'hui, les femmes et les hommes performent sur des vagues de 20 mètres, plus de 20 mètres. Que les femmes et les hommes vont concourir aux Jeux Olympiques de 2024 sur le même site, les mêmes vagues. Que la descente du Verbier, par exemple, en freeride, c'est la même descente. Pour les femmes et pour les hommes, c'est la même prise de risque, c'est le même effort, c'est les mêmes conditions d'entraînement, à part que il y a une compétition, les hommes, qui va se faire en premier, et la trace, on parle à des montagnards là, sûrement, la trace, elle est vierge quand les hommes y passent, et quand les femmes, elles passent, il y a déjà des cailloux, il y a déjà des marques, et donc la voie n'est pas tout à fait la même. Ouais. Et je reprends encore un exemple de Anne-Fleur Marxer, quand elle fait sa descente, où elle va devenir championne du monde de freeride, c'est le podium des hommes. Ouais. Et donc les médias sont tournés vers les hommes. Donc il y a encore un vrai problème de reconnaissance qui a un impact sur la médiatisation, parce que du coup, si on considère que les sportifs sont un sous-produit, on les médiatise moins. Tu évoquais les chiffres tout à l'heure, 4%, mais ça fait peur. Parce que du coup, à 4%, ça veut dire qu'il n'y a pas d'audience, donc il n'y a pas de sponsors qui vont y aller. Donc, c'est des inégalités de traitement. Et si je gagne moins par mes sponsors, j'accède moins aux pratiques parce que je me déplace moins aussi. Et donc, ces inégalités, elles tournent en boucle, elles s'entretiennent et il faut absolument déconstruire ce cercle vicieux.
Alors... nous a plombé le moral, Cécile, un petit peu.
Non, j'ai dit déconstruire, c'est maintenant.
Ah, déconstruire. Donc, c'est maintenant qu'on déconstruit. Donc, on a entendu qu'il y avait notamment des choses à faire. Donc, sur l'accès, on entend qu'il y a des choses qui vont mieux. En tout cas, ça va dans le bon sens, mais on a encore besoin de travailler sur les enjeux de traitement et de reconnaissance. Et donc, c'est notamment sur ces champs-là que je voudrais vous entendre, Marion, Éric, Mona. Vous avez eu l'occasion de tester des choses dans le cadre de vos différentes activités. Puisque voilà, l'idée c'est maintenant de proposer des solutions à notre audience. Mona, quand vous étiez au comité Auvergne-Rhône-Alpes de cyclisme, vous étiez en charge du développement de la pratique féminine. Qu'est-ce que vous avez pu tester, mettre en œuvre et avec quels résultats que vous pourriez partager avec nous ce soir?
Alors nous, on avait deux grandes thématiques. Dans le milieu fédéral, de manière générale, on a la partie de développement, on va dire. Donc on va s'adresser vraiment à élargir le champ des licenciés et s'adresser à des personnes qui sont pas forcément pratiquantes du sport, on va dire. Et après, le volet vraiment performance qui reste le cœur des politiques actuelles et puis de l'intérêt, on va dire, des fédérations, notamment en ce moment avec l'enjeu des Jeux Olympiques et Paralympiques. Sur la partie de développement, nous, l'idée c'était justement de faire en sorte qu'on ait plus de filles et de femmes licenciées. Alors, on s'est plutôt basé sur les catégories donc des minimes et des cadettes. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est un âge dans le vélo qui est assez central. Parce que en fait, quand elles passent ensuite dans les catégories supérieures, donc chez les juniors, elles vont courir avec des filles qui sont en niveau élite, on va dire. Donc, par exemple, des filles qui vont faire des courses de 120 km, au niveau World Tour, donc dans le plus grand des niveaux. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de voilà, il y a pas assez de coureuses, ou alors il y a pas assez de courses. D'accord. Et les organisateurs ne veulent pas forcément toujours faire deux courses séparées. Et du coup, c'est très compliqué de passer d'un niveau où on a fait des courses, on va dire de 60 km maximum entre filles du même âge, à des courses élites avec 120 km. Enfin, le gap, il est vraiment très compliqué à passer. Et donc l'idée, c'était qu'on garde ces filles-là et que du coup, on les aide à franchir ce cap plus facilement. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé en fait des stages, des grands stages régionaux ouverts à toutes les filles. L'objectif, c'était vraiment de leur permettre de rouler ensemble entre filles, parce que voilà, dans leur club, souvent elles sont très seules et c'est pas forcément un niveau d'encadrement. Voilà, il y a des clubs qui sont très bien avec lesquels elles ont un entraîneur, des entraînements vraiment très cadrés toutes les semaines, et d'autres où bah c'est les parents qui les entraînent, et on sait que quand c'est les parents, des fois ça amène aussi des dérives, voilà, notamment de un peu psychologique parfois, avec des parents qui sont un petit peu durs avec leurs enfants, et en plus voilà, c'est pas forcément des personnes qui sont formées pour entraîner, et donc c'est pas forcément comme ça qu'on arrive à progresser et à atteindre le niveau qu'on vise, on va dire. Donc voilà, nous on les a regroupés. Et voilà, de manière, on faisait deux stages par an, et c'était vraiment, ça marchait super bien, parce que voilà, elles étaient super contentes en fait de rouler ensemble. Et nous, ce qu'on leur proposait, c'était un contenu en fait technique, avec voilà des entraînements très spécifiques, des petits temps aussi où on leur expliquait, on leur parlait de nutrition, voilà, d'entraînement. Enfin, l'idée, c'était vraiment sur, on va dire, 4-5 jours, de leur donner le plus possible de contenu technique et tactique, pour que en fait bah voilà, elles voient que en fait c'est pas parce que c'est des filles qu'elles doivent se sous-entraîner, parce que c'est malheureusement souvent le cas. D'accord. Et voilà, l'idée c'était de leur montrer que bah voilà, si elles veulent progresser, il y a pas de souci, il y a on va dire une équipe technique régionale qui était à disposition pour les aider. Et donc elles étaient très contentes, parce que ça les en fait c'était vraiment très motivant pour elles de se retrouver ensemble, et après voilà, c'était elles se retrouvaient régulièrement et ça marchait bien. Et après, sur le côté on va dire plus performance, nous on avait une équipe donc de division nationale femmes qui a vraiment été créée bah justement parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes dans la région pour permettre en fait d'accéder à ce niveau-là. Et donc l'idée, c'était de prendre les meilleures filles de la région et de les faire courir tous les week-ends sur les Coupes de France. Et là encore, bah ça a marché, parce que justement il y a à peu près je pense là 4-5 filles qui sont devenues professionnelles. Et en fait, le but, c'est de montrer que, bah voilà, en fait, on propose un encadrement qui est adapté à leur niveau, c'est-à-dire un encadrement qui va pas chercher à les protéger, mais qui va justement bah, les prendre telles qu'elles sont et les faire courir à l'international aussi. Et bah voilà, un encadrement qui soit digne en fait de ce niveau-là. Et le but, c'était justement de les former pour qu'après des équipes professionnelles les contactent voilà, qu'elles puissent en tout cas atteindre le meilleur niveau, enfin que leur potentiel, on va dire, pouvait leur donner. Donc ça a aussi bien marché, mais malheureusement l'équipe s'est arrêtée il y a un an, voilà, sur décision politique, on va dire, du comité, pour aussi laisser la place aux équipes de club, en fait, parce que l'idée, c'est aussi normalement ça devrait pas être porté par un comité, mais plus par les clubs en fait, qui se structurent aussi et qui maintenant existent. Enfin, on va dire il y a plus d'équipes qui existent. Donc voilà, c'est vraiment ces deux axes-là sur lesquels on a travaillé en tout cas pendant plusieurs années.
Donc on entend qu'en tout cas qu'un comité départemental régional peut jouer un rôle assez fort de fédération, pour pousser et tirer vers le haut voilà, les filles qui peut-être dans certaines conditions sont protégées. On peut faire un clin d'œil, peut-être que c'est une de vos actions qui a contribué aussi, je crois qu'il y a une championne de cyclisme chambérienne, Julie Bégaud, qui a été sacrée championne du monde de cyclisme sur route il y a quelques mois. Donc peut-être qu'en tout cas les actions menées par Mona ont contribué aussi à ce niveau de performance. Marion, vous, en termes d'autres solutions, vous dites dans votre livre le rôle joué par des femmes alpinistes qui ont été des rôles modèles pour vous. Vous êtes vous-même en quelque sorte devenu un rôle modèle pour plein d'alpinistes et plein de femmes, je crois, aujourd'hui. Et vous m'avez pointé le rôle des réseaux sociaux qui sont souvent décriés, voilà. Mais finalement, vous m'avez dit que à vos yeux, c'était un vrai levier de transformation et une vraie solution. pour promouvoir la place des femmes dans le sport. Est-ce que vous pouvez nous partager du coup votre regard?
Oui, parce qu'on parlait de la problématique de la médiatisation, parce que du coup en alpinisme ça fait pas exception. Les alpinistes qui vont faire des belles réalisations sont des hommes, et puis il y a aussi une histoire d'affinité entre mecs, quoi. Ils sont plus copains avec les journalistes que moi je suis là au milieu, mais je me sens toujours. Qui parlait de solitude, je sais plus, mais c'est vrai qu'on est un peu toute seule au milieu de ce bazar. Même s'ils sont très sympas, c'est pas la question. Hein. Moi, quand même, moins d'affinité. Voilà, c'est comme ça dans la cour de récréation. Déjà, à la maternelle, ça va, mais à la primaire, les filles jouent avec les filles, les garçons jouent avec les garçons. Ça se fait quand même assez rapidement. Et ça se fait aussi quand on est adulte. Voilà, on s'entend bien avec les autres alpinistes hommes, mais voilà, il y a moins d'affinité. Donc, du coup, ils sont plus médiatisés. Et comme ils sont plus médiatisés, ils ont plus de sponsors, etc. etc. Et les réseaux sociaux, on peut se médiatiser toute seule. On n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un journaliste qui va nous voir et qui nous fasse dire des choses qu'on n'a pas vraiment dites en plus parfois. Donc ça c'est assez pénible. Donc du coup là c'est vrai qu'assez rapidement moi j'ai utilisé les réseaux sociaux, Facebook, à partir de 2008 je me suis inscrite, et puis à partir de 2012 moi je trouvais que j'avais un métier de dingue. À ce moment là je suis instructeur, donc j'ai quitté le groupe militaire d'haute montagne, j'étais un peu toute seule, j'étais un petit peu embêtée, et puis là j'ai donc eu un énorme plafond de glace, parce qu'à un moment les collègues ils partaient faire des grosses courses en montagne, je leur dis moi je peux pas venir avec vous en fait faire la façon des Contes Jurass, là je suis méga préparée, méga acclimatée. Ouais, mais tu comprends, on est déjà trois. Et donc la prochaine fois. Ouais, c'est d'accord, super, merci les gars. Donc là t'as compris que tu seras jamais, ça sera toujours dans l'équipe B et sur le bord des remplaçants. Donc là c'était la goutte d'eau, et donc là c'était vraiment un gros plafond de glace. Donc je bascule et je deviens instructeur montagne à l'école militaire d'haute montagne. Je kiffe mon job, là j'emmène les chasseurs alpins, donc des bonhommes qui reviennent de la guerre en Afghanistan, hein, des comme ça là, des vrais, des solides. Et puis je les emmène sur l'arête de l'Aiguille du Midi, sur les glaciers, ils font un peu moins les malins et c'est vraiment rigolo, enfin c'est super. C'est des stagiaires qui sont du coup super motivés, ils sont en stage, ils sont entraînés, ils sont puis ils ont des comptes à rendre parce qu'ils sont dans un cadre professionnel, donc je passe des super moments avec eux sur toutes les courses du massif. Donc bref, donc à ce moment-là, donc instructeur montagne, ouais, les MHM, l'école militaire d'haute montagne, était créée en 1930, moi j'arrive en 2012. Bon bref, faut se faire un petit peu sa place, quoi. Ils ont jamais vu une femme avec des crampons, donc c'est faut un peu de temps, voilà, qui s'habitue. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même super bien passé. Et mon métier, il est dingue, donc j'ai envie de le partager sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je vois que ça prend. Je vois que tu poses une petite photo quand tu sors de la benne à l'aiguille du midi, benne que tu prends tous les matins. De toute façon, tu en mets une petite photo à chaque fois, et en fait, ça plaît aux gens. Puis c'est chouette de partager. Et puis finalement, je me dis, je peux prendre une place là, et je peux commencer à m'exprimer. Et puis ça me permet aussi de rentrer en contact aussi avec du coup, d'autres athlètes qui sont pas forcément à Chamonix, et puis il y a aussi d'autres idées sur la place des femmes du coup dans le monde du sport en plus général, pas que l'alpinisme, et puis aussi dans le monde du travail et puis dans notre société en général. Enfin bref, il y a toutes ces idées qui arrivent en fait et qui se baladent sur les réseaux sociaux, parce que les minorités, elles peuvent envahir cet espace là il y a pas les grands médias qui sont contrôlés, qui sont là pour gérer, et on peut discuter entre nous. Et donc j'apprendrai plus tard que je suis une cyber féministe, ce terme un peu barbare, parce que je vais devenir féministe très tard, hein, parce que jusque-là, à peu près à 30 ans, moi, j'ai passé la grande partie à l'armée en me disant, je comprends pas pourquoi j'arrive pas à trouver ma place, mais en même temps, ça me permettait de mettre moins de barrières, cette naïveté de me dire, après tout, pourquoi pas moi, j'ai envie d'être en montagne, j'ai envie d'être payée à être en montagne, pourquoi je pourrais pas en profiter moi aussi, il y a quand même des belles places au soleil là, ça m'a l'air vraiment sympa ce job, et voilà, il y avait cette naïveté qui me faisait que je me mettais moins de barrières, mais quand même, il y avait des difficultés un petit peu au quotidien de me faire ma place, qui ont été expliquées un petit peu plus tard, et les réseaux sociaux ont permis à ça. Et aujourd'hui, juste pour finir, avec le club, parce qu'on en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, Lead the Climb, Lead comme Leadership, The Climb, l'escalade, donc Mène ta grimpe, Lead the Climb. On a pris un titre en anglais parce qu'en fait, le leadership, ça se traduit pas trop en français. Et puis, c'est vraiment cette idée de leader qu'on voulait faire passer dans ce club, donc qui propose des stages de formation au leadership dans les sports de montagne entre femmes. Et donc maintenant, c'est les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Donc avec Lead the Climb, on met des photos de montagne, de femmes, on voit des femmes en montagne qui sont leaders de leur course, et ça n'a rien à voir que elles sont pas là. J'ai rien complété en cabane entre copines, hein, je le fais aussi, hein, mais c'est pas le même objectif, c'est tout. Elles vont chercher, elles sont dans la neige, elles ont des piolets, elles ont des crampons, elles sont dans des phases de glace, et puis des fois c'est pas forcément des trucs très très durs techniquement, mais c'est quand même super important de voir ces photos là parce que le club il a que 5-6 ans, donc mais le niveau il monte bien, et il y en a quelques-unes qui commencent à prendre un chouette niveau, donc on va mettre des photos de plus en plus impressionnantes. Mais il faut faire un peu C'est compliqué cette com parce que si on met des photos trop impressionnantes, de nouveau, t'en as pas un petit peu, bah, elles vont se dire waouh, c'est pas pour moi. Elles sont trop fortes ces filles, j'arriverai jamais à les suivre et tout ça. Même entre femmes, elles arrivent à se mettre des barrières. Donc oui, les rôles modèles, ça peut être inspirant, mais ça peut aussi bloquer. Pour finir rapidement, du coup, moi, mon expérience, c'est que par exemple Catherine Destivelle, donc une grande alpiniste des années 90-2000. Face Nord, Joras, Eger, Servin en solo en hiver, c'était la meilleure alpiniste des alpinistes. Elle les a tous mis ras la moquette, tout le monde d'accord. Mais en fait, moi je me disais, waouh, ouais, en fait elle est trop forte en fait. Une fois que t'as fait ça, toi t'arrives derrière, qu'est-ce que tu veux faire? On te fait comprendre que ouais, tu te débrouilles bien, mais gars, enfin je veux dire, enfin voilà, il y a Catherine Destivelle quoi. Et en fait, depuis Catherine Destivelle, c'est vrai qu'il y a aucune femme alpiniste qui a pris le devant de la scène, qui a pris de l'espace, parce qu'elle a pris tout l'espace médiatique et elle continue. Et bon, c'est bien d'une certaine façon, vaut mieux que ce soit elle qui le prenne qu'un autre bonhomme, mais du coup ça efface aussi un peu les femmes. Et c'est vrai que moi je suis arrivée derrière, je me suis dit bah waouh, alors là je vais pas y arriver en fait, je ferai jamais une alpiniste de haut niveau, alors que ça me disait bien et ça m'a freiné un petit peu au moment. J'étais plus fascinée par une américaine qui s'appelle Lynn Hill et qui faisait que de l'escalade. Et j'arrivais plus à m'identifier, même si elle a fait des trucs que je ferais jamais finalement. Il y a un moment, j'ai cru que peut-être je pourrais y arriver, mais en fait, non. Mais en plus, ce qui était vraiment fascinant, c'était aussi cette histoire qu'elle se positionnait vraiment. Elle essayait pas de faire comme les hommes, enfin de rentrer dans le jeu des hommes et d'aller encore au-dessus comme Catherine l'a fait. Elle a fait une voie en escalade, aucun homme l'avait jamais fait. Et puis elle a dit It goes, boys, ça passe les gars, en 93. Et voilà, clairement, elle a affiché qu'elle allait pas se limiter au niveau des hommes, et c'était même pas sa référence en fait. Voilà, c'était leur truc à eux, et elle faisait son truc. Et cette américaine, elle me parlait beaucoup plus.
Ok. Bon. Qui a créé ses propres repères et qui était justement pas dans la comparaison que vous évoquiez tout à l'heure. Ça marche. Merci pour ce témoignage. Toujours sur la lignée des rôles modèles, vous avez commencé à en parler, Cécile, tout à l'heure, la question des rôles de pouvoir. Vous avez dit que voilà, il y a des inégalités qui s'étaient déplacées sur la question de l'accès à la pratique. Il y a des choses qui bougent, mais sur la question de l'accès au rôle de pouvoir, au rôle d'encadrement, de gouvernance dans le sport, bah là, il reste encore beaucoup de choses à faire.
Oui, c'est les deux bastions effectivement qui restent assez forts. Alors, on distingue dans rôle de leadership, tu as raison, c'est difficile de traduire. Donc, parmi les postes un peu de prise de pouvoir dans le monde sportif, on peut en distinguer deux types. Il y a les postes de politique. Donc, on va dire qu'ils vont participer à la gouvernance du mouvement sportif, donc les dirigeants, les dirigeantes. Et puis, il y a les postes d'entraîneurs nationaux. Voilà, je suis entraîneur ou entraîneuse d'une équipe de France. Et là aussi, ce sont des postes à plus fort pouvoir. Alors, sur les postes de direction, on a la chance d'être dans un pays qui, depuis 10 ans maintenant, depuis 2014, s'est engagé avec une politique de quotas. Ça a commencé avec la loi du 4 août 2014, où il y a une première étape de quotas qui a été fixée. Toutes les fédérations qui avaient plus de 40% de femmes devaient avoir un minimum de 40% de femmes dirigeantes. Et pour les fédérations qui avaient moins de 40% de femmes parmi leurs licenciés, il y avait un minimum à 25% de femmes. Donc ça a déjà fait bouger un peu les lignes, parce que ça a obligé les fédérations sportives, effectivement, à inciter un peu plus de femmes à prendre des responsabilités et à en trouver. Parce qu'en fait, une des grandes rhétoriques, c'était dit, mais on n'en a pas, on n'en trouve pas. Voilà. Oui, mais quand on cherche, je vous assure, on trouve. On dit souvent que les chercheurs ne trouvent pas, mais nous, on trouve. Et donc, dans les collectivités ou les fédérations, si vraiment vous cherchez bien, si vous incitez, si vous donnez envie par effectivement des éléments positifs hein, quand même sur la fonction, bien sûr, il y a des femmes qui ont envie de faire ces fonctions. Et la dernière étape, elle a eu lieu là en 2022, mars 2022, où l'État français a pris la décision d'instaurer la parité absolue dans tous les conseils d'administration des fédérations sportives. Donc pour 2024, il faudra qu'il y ait parité à l'échelle des fédérations. Et la bonne nouvelle, c'est que ça reste pas tout en haut. Ouais, c'est que pour 2028, donc dans 4 ans, un peu plus, il faut que les comités régionaux, les conseils d'administration des comités régionaux, c'est ça, des ligues, soient aussi paritaires. Donc ça bouge. Alors c'est important parce que cette loi, elle a fait quand même évoluer le curseur de 13 points. En à peine 10 ans, on est passé de 27% de femmes en moyenne dans les fédérations à près de 40 aujourd'hui. Alors pour autant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, l'équilibre numérique n'est qu'une étape. Je peux très bien avoir autant de femmes dans un conseil d'administration que d'hommes, mais avoir des femmes qui sont secrétaires, trésorières, voire pas de fonction, si ce n'est membre de ce conseil, et puis tous les hommes qui occupent les postes de président, vice-président, et puis voilà. Et globalement, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc maintenant qu'on a travaillé, qu'on travaille à l'équilibre numérique, il faut travailler à l'équilibre des pouvoirs à l'intérieur. Ouais. Et donc, il faut être vigilant là-dessus. Sur l'autre secteur de leadership, qui est les postes d'entraînement technique, là, on est très, très loin. Aujourd'hui, okay. Il y a 11% de femmes qui sont entraîneurs d'équipe nationale. Pourtant, au JO de Paris, on va avoir à peu près autant de femmes que d'hommes. Dans la délégation française, on va être à 48-52, ce qui est plutôt pas mal. Il y a des pays qui vont amener plus de femmes. C'est le cas du Canada. Le Canada va amener 56% d'athlètes. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui rapportent le plus de médailles au Canada. Donc, il y a des enjeux géopolitiques, bien sûr, au moment des Jeux Olympiques. Et donc, chaque pays va faire comme ça son calcul. Donc, nous, on a autant d'athlètes, à peu près femmes que d'hommes, qui vont arriver. Et pourtant, dans l'encadrement technique, on a nettement moins de femmes. Il y a un vrai problème, là encore, de... Alors, tu disais plafond de glace, plafond de verre. Moi, je dis plancher collant, quoi. Parce qu'en fait, les obstacles, maintenant, on les connaît bien. C'est pas qu'on les voit pas. On les connaît bien, mais par contre, ça plombe un peu. Et pour finir avec les difficultés sur les entraîneurs, où Elvis, on a fait une petite enquête là sur les conditions de travail des femmes entraîneurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, elles avaient les mêmes diplômes, le même niveau sportif et les mêmes missions que les hommes, d'accord ? Mais qu'elles avaient... généralement, elles étaient plus jeunes, elles restaient moins longtemps dans le métier, elles restent 5-6 ans et après elles décrochent quand les hommes font une carrière. Tiens, qu'est-ce qui se passe pour qu'on a été voir après ? Elles sont moins bien payées, elles travaillent plus souvent avec les enfants et hors compétition, ce qui est la raison pour laquelle elles sont moins payées. Elles ont moins de primes liées à l'activité, au niveau, etc. Elles sont beaucoup plus concernées par des actes de sexisme, c'est-à-dire on n'est pas là sur les violences sexuelles qui aujourd'hui font aussi beaucoup parler. Ouais. Là, moi, je parle du lit des violences, justement. C'est le sexisme, c'est-à-dire la dévalorisation permanente, la dégradation permanente de ce qu'elles font, de ce qu'elles sont, de ce qu'elles disent. Et donc, c'est ce contexte-là aussi qui, à un moment donné, est juste toxique. Hostiles et qui font qu'elles décrochent. Et effectivement, quand on a été faire des entretiens plus longs, des entretiens de carrière avec des femmes qui avaient abandonné la carrière, eh bien, parmi les facteurs qui revenaient tout le temps, c'était le caractère sexiste du milieu. Donc là aussi, ça veut dire que c'est la culture de l'organisation qui est en jeu. Et donc là, on est en train de parler solution, en fait. Parce que si je veux garder des femmes dans des postes de direction... Eh bien, il y a des mesures, il y a des possibilités, des quotas ou des objectifs. Voilà, fixons des objectifs numériques. Regardons l'équilibre des fonctions. Regardons la culture de l'organisation. Et est-ce que c'est pas juste un milieu où, même avec tout l'empowerment et toute la confiance en elles, au bout de 6 mois, elles ont qu'une envie, c'est de se barrer parce qu'en fait, c'est l'horreur. Donc, il y a moyen de regarder effectivement les choses et de travailler dessus.
Éric, vous voulez réagir au propos de Cécile ?
Oui, et puis aux propos qui ont été donnés à côté, c'est-à-dire que il y a la question politique qui est importante, mais il y a aussi la question de changer de l'intérieur le fonctionnement des structures. Et on sait aussi, on l'a vu dans le monde économique, les changements, les incitations à la parité sur les groupes du CAC 40 ne changent pas grand-chose sur le fond, parce qu'on peut aussi reproduire des choses en sélectionnant ici des femmes qui vont... des élites qui vont finalement être coupées de certaines réalités, ou quand il nous manque tous les étages intermédiaires. Voilà, et ce qui font ce contexte toxique. C'est pour ça que je voulais revenir sur la question des deux initiatives dont vous avez témoigné, Lead the Climb, cette volonté à une échelle régionale, à un moment donné, de bouger sur les équipes. On voit qu'il y a aussi par le bas, et l'innovation sociale, c'est ça, c'est souvent des choses qui sont des initiatives assez localisées, qui peuvent faire modèle ou s'essaimer quand tout va bien derrière. qui a surtout aussi, j'allais dire surtout presque plus que par le haut, des leviers pour faire bouger les choses. Et si on reprend l'exemple de ce qui se passe dans les groupes de femmes en montagne, ou un club, dans le cadre de votre initiative, je dis vôtre parce que c'est un collectif qui a été derrière et qui l'anime, ben on a quelque chose qui est vraiment fort. Qui est vraiment fort, c'est-à-dire que là, pour le coup, l'empowerment, il se joue. On peut être dans une pratique loisir ou d'être dans un encadrement ordinaire qui va pas viser à être élite, et puis de monter en puissance et de s'ouvrir des portes pour aller vers, les groupes permettent ça aussi, vers les métiers de l'encadrement, jusqu'à être guide et tous les espaces intermédiaires. Et donc, là, il y a quelque chose qui est vraiment très fort parce que ça fait péter un certain nombre de barrières derrière. Dans celles qu'on n'a pas citées sur ces activités, il y a la question du risque, de l'engagement réel ou supposé ou assigné qui produit l'auto-éviction ou les freins mis aux autres. Et donc là, bah, d'un coup, ou le fait d'être derrière les hommes, hein, dans la cordée. Et donc la pratique, la pratique entre femmes, la pratique non mixte, qui n'est pas un problème quand elle est vue du côté des hommes, hein, c'était trois mecs qui t'ont oublié, hein, qui t'ont laissé sur le banc. Bien, cette pratique non mixte vue du côté des femmes, elle fait que, en fait, immédiatement, par le dispositif qu'on met en place, on ne peut plus s'auto-exclure ou se mettre derrière ou laisser les autres jouer devant. Et on peut le faire sur des choses, tu dis oui, c'était pas hyper technique, mais en fait c'est déjà engagé, on est déjà dans l'imaginaire, on est déjà dans le plaisir en fait aussi de ça. Et puis on apprend, on se découvre et on se découvre les uns les autres. Et ça veut pas dire que parce que c'est non mixte, il y aura pas des pratiques mixtes à un moment donné. Ouais. C'est souvent très mal compris vu de l'extérieur, comme si c'était un espèce d'apartheid ou un refus de pratiquer avec des hommes. Non, enfin, c'est juste qu'il y a des espaces dans lesquels on apprend ensemble, on a aussi du plaisir ensemble, on le fait peut-être avec moins de pression que de l'autre côté, et puis à d'autres moments, on pratiquera de manière mixte. Et ces exemples-là, ils sont importants parce que au-delà des décisions politiques qui sont utiles, mais qui ont leurs propres limites, on a ici des espaces qui sont pas faciles à porter parce qu'on va te renvoyer dans les dents en permanence. Oui, mais bon, voilà, c'est-à-dire que vous voulez pas faire avec les hommes, et là, on ressort il faut lutter de nouveau. Non, en fait, c'est pas opposé. Et donc, ces espaces-là sont des espaces dans lesquels il y a possibilité de faire bouger parfois les lignes qui ne sont pas suffisantes. Et il faut donc que les deux se rencontrent pour pouvoir avoir plus de femmes qui pratiquent à tout égard pour monter vers l'encadrement, et que quand on n'est qu'entre soi, c'est plus facile de ne pas subir l'environnement toxique par ailleurs.
Est-ce que Marion, du coup, vous voulez peut-être rebondir, enfin, nous en dire un peu plus sur Lead the Climb, sur votre expérience, ou en tout cas peut-être qu'est-ce qui a été à l'origine du projet et qu'est-ce que vous en observez? Vous l'avez monté en 2018, on est 5 ans après. Voilà, qu'est-ce que ça produit comme résultat? Qu'est-ce que vous pouvez en dire et qu'en disent peut-être les utilisatrices, les membres du club?
C'est comme il a dit, en fait on est un peu d'accord, hein. Non mais c'est ça, c'est d'être entre femmes, c'est tout est plus simple, et quand tu dis ça aux hommes, et quand sur les réseaux sociaux t'annonces que tu vas faire des sorties avec les filles, et tu te prends une levée de boucliers alors que t'as rien inventé quand même depuis la création du sport, tu l'as dit ici,
si Alice Milia avait pas créé une fédération de femmes, ce serait toujours la misère du côté du sport féminin. Et puis les Jeux Olympiques pratiquait une apartheid sexuelle jusqu'en 2012. C'est-à-dire, jusqu'en 2012, il y a des délégations qui venaient sans femmes. Et ça choquait personne.
Et donc maintenant, si tu dis que tu veux sortir entre copines, tu passes pour un extrémiste. C'est assez ironique, mais c'était quand même dur à encaisser. Moi, j'ai pu créer Lead the Climb. Donc Lead the Climb, c'est un club aujourd'hui affilié à la FFCAM, donc au CAF, c'est un club CAF. Et c'était pas simple au début, et j'ai pu porter ce projet. Donc le but, c'est vraiment d'amener de la technicité et du leadership. Donc en tant que guide d'haute montagne, moi, j'avais les compétences et on va dire la crédibilité pour amener les femmes à ce niveau-là. Donc c'est important que ce soit porté, je pense, au début par une guide, et heureusement je suis pas guide indépendante, c'est-à-dire que, parce que moi sinon le milieu il m'aurait juste jeté, quoi. En fait, t'es sortie du milieu professionnel, tu t'en prends tellement plein les dents sur comme quoi tu vas trop loin, t'exagères, le milieu, enfin le guide de haute montagne, c'est ça m'est très sympa, voilà, je suis pas en train de cracher sur les collègues, hein. mais tes copains, voilà, c'est du boulot où tu te le passes, voilà, de copain en copain, et ben du coup là t'es un peu affiché, oui elle fait des trucs qu'entre femmes, que c'est une extrémiste féministe qui veut leur couper les, voilà, toutes les parties de la planète, elle en veut aux hommes. Enfin bon, en bref, c'était vite catégorisé. T'es la tête à couper, la tête à abattre. Enfin, j'ai des commentaires de harcèlement. Enfin, c'est incroyable hein, par des guides. Hein. Et puis certains qui travaillent dans des syndicats, pour ne pas les nommer, pas le SNGM, mais l'autre, voilà, le président de l'autre syndicat. Mais incroyable, hein. Il voulait me couper la tête, alors qu'on s'est jamais rencontrés. Hein. Mais ça lui plaît pas que j'organise des sorties entre femmes. Bah ouais, mais bon, je fais un peu ce que je veux. Donc j'ai pu supporter ce projet parce que aussi financièrement, moi, je suis indépendante dans le sens où je suis pas travailleuse indépendante, je suis fonctionnaire. Donc en fait, je fais ce que je veux. Si j'ai plus de travail en guide, en fait, j'avais pas ce risque-là parce que tu sais pas au début quand tu crées tes produits et que tu vas vendre des stages à des femmes avec des guides. Je voulais absolument que ce soit des guides qui encadrent parce que je voulais que les participantes elles progressent. Enfin, c'est les participantes. Hein, je dis ça, j'ai créé ça parce qu'il y avait une demande. J'ai vu qu'il y avait une demande. Moi, j'encadrais des groupes féminins au sein du CAF. Et par exemple, il y avait 17 places pour deux groupes. Il y avait plus de 100 candidatures. Donc, comme tu disais. Mona tout à l'heure, quand on met des choses en place, c'est drôle, ça marche. Mais si on propose pas des groupes féminins, ben non, elles vont pas se pointer. Au tout début, avant qu'en fait, il y ait le... je fais trop long là. du coup, j'en étais où ? Ouais, donc le Lead the Climb aujourd'hui, ouais. C'est 220 journées de formation, c'est quand même assez énorme. Ouais. Et puis aujourd'hui, ce qui est génial, c'est un petit peu en avant-première, mais là, je suis présidente du club, mais je vais plus être présidente du club, je me suis fait virer parce que les bénévoles du comité, ils ont trouvé que je gérais pas très bien. Je les ai pas démentis. Moi, la partie administrative, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi, j'aime bien, c'est monter des stages, c'est imaginer des produits, c'est emmener les filles sur le terrain, mais faire des tableaux Excel et puis aller chercher des subventions. Non, vraiment, je suis nulle à ça.
On a dit qu'il fallait vendre le métier de présidente.
Ah, pardon, excuse-moi.
Marion, je compte sur vous.
Ouais, non, mais
c'est
moi, je suis.
Dit Cécile, juste
il faut aussi des conseillers techniques. Hein. Bon, ça va. Moi, je vais rester dans ce que je sais faire.
C'est aussi être ambassadrice de.
Mais du coup, il y en a d'autres qui ont repris et qui sont super. Hein. Du coup, non, elles sont meilleures que moi et ça existe donc. Non, mais en vrai, c'est des bénévoles qui investissent dans le club, ouais. Et elles ont un job. Du coup, elles sont derrière un ordinateur et ouvrir un tableau Excel et répondre à des mails, ça leur coûte aucun souci, voire ça leur fait une petite pause. Lead the Climb, ça leur fait un peu voir autre chose du job et c'est super. Moi, je n'ouvre jamais mon ordinateur. Donc voilà, c'est parfait parce qu'aujourd'hui, je vais être membre d'honneur de Lead the Climb, ça me va très bien. Et le bébé a été repris par plein de femmes. Donc il y a 250 adhérentes, mais encore une fois, sur les réseaux sociaux, il y a eu hashtag Lead the Climb. Et c'est des femmes qui ont fait une course en tête, une dure, une pas dure, mais elles étaient leaders de leur sortie. Et donc, du coup, ça s'appelle hashtag Lead the Climb. Quand t'as fait ta sortie en tête et que, ouais, tu t'es, voilà, t'es fière de toi parce que une course, quand tu grimpes en tête, une course en montagne, c'est comme un cookie, c'est vachement bon. Mais une course en montagne en tête, c'est comme un cookie, mais avec des pépites de chocolat. Ça a quand même un petit truc en plus, quoi. C'est toi qui as pris les décisions, c'est toi qui as mené la cordée, tu peux t'en prendre qu'à toi si ça marche pas, mais c'est aussi grâce à toi si ça a marché, quoi. Et c'est hyper valorisant. Moi, j'ai toujours pratiqué en leader. Dès le début, hein, mon papa, il m'a dit « Non, mais vas-y, passe devant, c'est bon, je vois pas pourquoi ce serait différent, devant, derrière, c'est pareil. » Bon, bah, du coup, j'étais devant et c'était génial, c'était grisant. Voilà, il y a tout un petit peu grisant quand t'es derrière avec la corde se tend. On appelle ça être tenu en laisse, voilà, dans le jargon, on appelle ça faire le drapeau derrière. Tu vois, la corde, elle est tendue, puis toi, t'es là, tu flottes au vent, voilà, et t'essayes de suivre ton leader comme tu peux. C'est des expressions qui sont assez négatives pour les secondes cordées. Bon, pour qu'il y ait un leader, on a besoin de suiveurs, attention. Hein. Mais tout ça pour dire que moi, je préférais être leader. Et c'est ça qu'on veut promouvoir dans le club. Donc, le club, il marche tellement bien que des femmes l'ont récupéré et je me fais virer et c'est génial.
Très bien, merci pour cette bonne nouvelle. Si c'est vous qui avez dit que c'était une bonne nouvelle. Donc on entend plein de solutions à travers les témoignages que vous avez portés. En tout cas, on entend que la non-mixité, l'encadrement technique, le fait d'accompagner, de pousser, d'encourager et non pas de surprotéger, couver, voilà, c'est aussi des solutions pour... on voit que ça, en tout cas, que ça porte ses fruits, que ça plaît aux femmes, qu'elles sont nombreuses à vouloir se positionner aussi sur ces créneaux-là. Le temps file. Très rapidement, et parce que peut-être que dans la salle il y a des questions, j'en suis sûre, je voudrais quand même, puisqu'on est dans le cadre de la fête de la science, vous demander à chacun, chacune, très rapidement, pourquoi c'est important de faire une fête de la science sur cette question du sport, en quoi la science peut éclairer le sport, ou peut-être en quoi le sport peut être évidemment un formidable terrain de jeu pour la science. Je vous laisse les unes les autres répondre très rapidement sur un partage d'expérience, votre regard sur ça.
Bon, là, je vous laisse commencer. Je vais commencer. La science, c'est essentiel, notamment sur cette thématique-là. C'est notamment pour ça que le Master Egalab, c'est une formation assez géniale et qui nous a formés correctement par rapport à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est confronté quotidiennement à des arguments qui sont non fondés, en fait, enfin, qui sont en tout cas pas fondés scientifiquement, et qui pourtant sont portés par les plus hautes instances le plus souvent, ou en tout cas des personnes qui ont le pouvoir et qui sont les décideurs ou les décideuses. Et en fait, la science, c'est quelque chose qui, normalement, si c'est bien fait, c'est irréfutable. Et ça permet de montrer justement que, en fait, ce qui est dit, c'est faux et que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, on a eu aussi, et encore aujourd'hui, un manque de données scientifiques. Et c'est vrai qu'en Egalabs, sur les différentes thématiques qu'on peut aborder dans nos mémoires, moi, quand j'ai choisi de travailler sur la place des femmes dans le cyclisme, en fait, très rapidement, je me suis aperçue qu'il y avait pas grand chose qui était fait, voire vraiment rien du tout, et que en fait quand on trouve des livres scientifiques, hein, pour autant, hein, le cyclisme en France, en fait c'est pas le cyclisme en France, c'est le cyclisme masculin en France, et du coup on se dit bon bah du coup c'est très bien, mais il y a quand même aussi des femmes qui font du vélo, et moi je m'intéresse à ces personnes là j'aimerais bien avoir de la donnée sur ces personnes là et sur plein d'autres thématiques c'est le cas, sur des thématiques vraiment de performance, des études en sciences de la vie sur la perf, on s'est aperçu aussi que à chaque fois les sujets qui sont choisis c'est que des hommes, et donc la question se pose, est-ce que du coup c'est exactement pareil et auquel cas très bien, mais peut-être que des fois il y a des petites différences, et en tout cas s'il y en a c'est bien quand même de le regarder, donc c'est pour ça que c'est vraiment hyper important, et notamment en ce moment sur des thématiques par exemple sur l'inclusion des personnes trans dans le sport, où on entend des discours absolument terribles par rapport à ça, sur la testostérone, plein de choses, et qui en fait même des années avant on avait le même problème, hein, au début du 20e siècle on avait peur que les femmes en faisant trop de sport elles aient des descentes d'organes, sur le vélo on disait qu'elles se masturbaient, plein de choses complètement irréelles, mais pour autant c'est la science en fait après qui a permis de montrer que c'était complètement faux, et c'est sur ça qu'on s'appuie, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de données pour en fait montrer que il y a des choses qui sont pas comme elles sont annoncées en fait par les personnes qui en tout cas font le sport aujourd'hui, ouais. Et donc la science c'est essentiel, et aussi parce que c'est la science, c'est la critique aussi, donc c'est aussi remettre en question un certain nombre de choses qu'on pouvait penser comme étant irréfutables, on va dire.
Voilà, c'est l'idée de...
Je crois que ce soit Cécile qui a le mot de la fin.
Ouais, voilà. Non, ce que je voudrais partager, et là où il y a l'intérêt d'avoir des travaux historiques, les travaux sociologiques et les travaux anthropologiques, c'est que sur les activités physiques en général, et ça comprend le travail, ça comprend tout ça, enfin il y a des travaux monstrueux qui ont été menés, et le sport est une activité parmi d'autres. En fait, il y a rien, c'est un truc à partager, c'est bien qu'il y a rien qui, d'un point de vue physiologique ou biologique ou essentialiste, expliquerait pourquoi on est obligé de se poser cette question. Il n'y a absolument rien qui peut démontrer quoi que ce soit qui ferait que les femmes n'aient pas accès à l'identique aux activités, mais plus encore en fait au même niveau de performance. Alors vous avez croisé peut-être 2-3 physiologistes qui vont dire non, mais il y a 2-3 petits trucs qui font que sur je sais pas quoi, mais c'est un pouillème de je sais pas quoi, on n'est même pas sûr que ce soit homme ou femme ou d'autres éléments. Et en fait on regarde d'ailleurs un exemple sur l'escalade sportive, aujourd'hui le niveau se rapproche de plus en plus entre les meilleurs femmes et meilleurs hommes, et demain on va y être presque, parce que le volume de femmes qui rentrent dans cette activité là grossit, et ça c'est le levier. Et tu parlais de l'alpinisme, ton exemple était très parlant, en fait ça n'a rien à voir avec une quelconque capacité que tu aurais pas aux autres, c'est juste que ils en faisaient depuis plus longtemps, avec moins de barrières, avec bien plus d'hommes avec lesquels pratiquer, que toi t'étais toute seule dans ton coin, et que si on te donnait les moyens, et qu'on te donnait les moyens avec plein d'autres, en fait ça serait pareil. Donc absolument aucun élément fondement de quoi que ce soit qui expliquerait et les inégalités que tu as évoquées et des différences de performance.
Parce qu'au début, moi, j'étais donc pas du tout, donc un peu naïve, et puis je suis devenue un sujet d'étude pour Cécile avec le club Lead the Climb, et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des études de genre, et qu'il y a des gens qui s'étaient posé la question là-dessus, et donc moi, ça m'a permis de mettre des mots en fait sur ce que je ressentais, et ça m'a appris à écouter un peu plus mes émotions, parce que jusque-là, je me disais mais c'est peut-être moi, si ça marche pas, je suis pas assez sympa, je suis pas assez forte, peut-être que je suis plus travailleuse, donc tu te remets en question tout le temps, et puis tu te construis une grosse carapace un peu pour te blinder de ce qui se passe autour de toi, et tu deviens un peu dingue. Et donc la science, ça m'a évité de devenir dingue peut-être, de mettre des mots sur mes mots, et d'en écrire un livre.
Cécile, le mot de la fin.
En fait, ils ont tout dit, c'est parfait. Moi, j'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé hier ici, avec des lycéens. Où effectivement, donc il y avait la salle était pleine, hein, lycéens.
Pour resituer,
parce que c'est pour passé, resituer. Si... Mais en fait, tout à l'heure, je me suis dit, mais voilà, comment ça se fait que c'est pas sur une soirée comme celle-là aussi que on a fait venir des lycéens et bon. Et donc j'étais dans la petite salle à côté et donc j'étais là pour répondre aux questions. Et un certain nombre de jeunes, pas beaucoup, minoritaires, mais avec un gros pouvoir de prise de parole et de leadership, m'ont tout de suite interpellée sur « Mais madame, les femmes seront jamais aussi fortes que les hommes et la biologie. » C'est-à-dire qu'on voyait bien que ce qui est tout de suite fonctionnel, c'est la dissemblance des corps. Ton corps est différent du mien et donc forcément, il y a ce que Bourdieu appelait une biologisation du social, c'est-à-dire que ce que je pense et même passé ce que je crois de ce biologique va organiser le social. Et Eric l'a très bien dit, ben non, le social il est différent, le social il est politique, c'est-à-dire c'est des choix à chaque fois politiques. La question des droits, c'est pas la question des biologies, on fixe pas les droits des personnes en fonction de leur biologie. Enfin, il y a eu des régimes politiques qui ont voulu faire ça avec les personnes racisées, avec les juifs, avec et on sait où ça mène ces politiques là qui s'appuient sur le biologique pour fixer des droits. Donc c'est extrêmement important de le déconstruire. Et effectivement, moi je regrette aussi que fait de la science soit au singulier, c'est les sciences et parmi les sciences, il y a les sciences sociales qui apprennent en fait à voir qu'il y a des conditions sociales de production de la performance. Et que suivant le milieu social dans lequel on évolue, les classes bourgeoises versus les classes populaires, suivant qu'on soit racisé ou pas racisé, suivant qu'on soit homme ou femme, c'est pas la biologie qui joue, c'est l'environnement social qui joue sur les conditions effectivement de production de performance. Donc ben, la science, c'est absolument indispensable pour ça. Et pour finir, et c'était à nos élus que je voulais parler, il y a effectivement besoin de la science pour mener l'action publique. Et c'est important qu'il y ait toujours ce lien entre production scientifique et action publique. Et moi, je crois qu'il y a trois leviers forts. C'est un, il faut que les collectivités territoriales et tous les élus, ça peut être dans un club, il faut objectiver les choses. Si on n'a pas de chiffres, si on n'a pas de données, si on ne nomme pas à un moment donné ce qui se passe avec objectivité, on ne peut pas mener de politique. Moi, si je ne sais pas ce qui se passe dans mon club, en termes de répartition des créneaux horaires, en termes d'occupation de l'espace, en termes de fonction dans mon comité d'administration, si je ne sais pas, bah, je crois que tout se passe bien, parce que globalement, j'ai envie de croire que tout se passe bien. Et puis, bah, du coup, je ne mets pas en place d'objectifs précis, par exemple des quotas, par exemple une communication inclusive volontaire en ciblant tel public, par exemple un budget de l'égaconditionnalité. Par exemple, des budgets qui, effectivement, vont servir aux hommes comme aux femmes. C'est donc, diagnostiquer. Et ça, il y a besoin de la science pour le faire. Et des scientifiques. Au Elvis, on est de plus en plus sollicité sur de la recherche-action. On est de plus en plus sollicité. Alors, normalement, ce n'est pas notre job, hein, mais sur de l'expertise, effectivement. Alors, on essaye de trouver des compromis, parce que pour moi, c'est important qu'on ne soit pas dans nos tours d'ivoire et qu'effectivement, on puisse faire le lien avec l'action publique. La deuxième chose, et ça ne relève pas de la science, ça relève du politique, c'est contraindre. À un moment donné, il faut s'engager. Il faut contraindre. J'ai parlé des lois quotas tout à l'heure, on a parlé de l'égaconditionnalité, il y a plein de façons de s'engager. C'est des éléments de com aussi, c'est de l'écriture inclusive. Si on nomme jamais les femmes, si on parle toujours des sportifs, ben on oublie qu'il y a des sportives. Donc ça fait discuter en ce moment l'écriture inclusive. Mais voilà, ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et le troisième levier pour moi, c'est former. Et là, encore une fois, il y a le lien avec la science, parce que ben voilà, il y a effectivement des études universitaires aujourd'hui qui forment à ces questions-là. Mais tout le monde là, dans les collectivités, dans les clubs ou ailleurs, va pas venir forcément refaire un master. Donc ça peut passer par des actes de sensibilisation en allant chercher effectivement des étudiants diplômés. Aujourd'hui, il y a des diplômes en études de genre. Il faut créer des métiers. Il faut créer des métiers dans vos mairies, dans vos conseils régionaux, autour de l'inclusion, autour de l'égalité, autour de la lutte contre les discriminations. C'est pas au doigt mouillé que ça doit se faire avec des gens de bonne volonté. Il y en a plein, des gens de bonne volonté. Mais il y a aussi des gens de bonne volonté qui font des erreurs parce que scientifiquement, ils ont pas un certain nombre de maîtrise des concepts, de méthodologie et de recul, on va dire, pour mettre en place des choses. Donc oui, il y a des gens formés et donc il faut aussi savoir les utiliser. À Lyon, par exemple, et pour finir avec ça, on a créé un petit module, du coup, de 65 heures pour des gens qui sont professionnels et qui voudraient revenir faire de la formation. Il y a de plus en plus de ça dans les universités, ouais. Des petites formations courtes, reprises d'activités, etc. Mmh. Donc voilà, il y a des choses à faire.
Merci Cécile, vous avez réussi à faire le bilan de l'intérêt de relier science et sport et en plus à faire la promo pour le master à Galaps. Elle est incroyablement forte. Placement de produit. Merci à tous les quatre, on peut les applaudir très chaleureusement, très très fort. Et puis ben on peut prendre peut-être voilà quelques questions dans la salle si voilà n'hésitez pas à... une main qui se lève
c'est parce que j'étais à côté du micro. Bah, merci infiniment pour cette présentation qui était vraiment riche et passionnante. Alors du coup, je vais prendre ma casquette de Galerie Eureka pour vous poser ma question. C'est vrai que je suis un peu déçu qu'on n'ait pas réussi à mobiliser plus de monde pour cette présentation et on a ce souci, on aborde ces thématiques régulièrement à la Galerie Eureka en tant que centre de culture scientifique. Et nous aussi, on a des enfin, c'est pas un plafond, mais c'est quelque chose qui fait que les gens ne viennent pas. Alors, on cherche à comprendre pourquoi ça les intéresse pas. Je pense pas que ça les intéresse pas, mais des fois, je fais l'analogie avec le réchauffement climatique, où là, on a des climato-sceptiques. Et donc, ça ne les intéresse pas. Et là, on se dit, qu'est-ce que ça produit pour que les gens ne viennent pas Est-ce que c'est de l'anxiété? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et on aimerait, nous, avoir des mots là-dessus, parce que ça serait peut-être des verrous à déverrouiller pour pouvoir, justement, ouvrir les portes et faire venir plus de public. Parce qu'on a fait récemment une exposition sur l'égalité femmes-hommes qui s'appelait Super Ego, magnifique expo, où là, on déconstruit un certain nombre d'idées reçues. On a organisé des tables rondes. Et à chaque fois, on va se retrouver avec un public militant. Et on n'arrive pas à toucher les autres publics. Et voilà, donc on a des élus, on essaye de les faire venir, on essaye de les sensibiliser à tout ça. Mais voilà, et peut-être qu'il nous manque, nous aussi, des clés pour sensibiliser le public à ce sujet.
C'est vraiment ça, comment est-ce qu'on porte des idées nouvelles ou qu'on essaye d'attraper des gens, c'est hyper dur, c'est super laborieux. Et en fait, on peut avoir un sujet hyper accrocheur, hyper important, et à un moment donné, on n'arrive pas à avoir les relais vers les gens. Alors, il y a une piste qui est facile à aborder, c'est quand on contraint les gens. Donc là, hier, il y avait 300 lycéens qui étaient contraints, entre guillemets, mais c'est hyper important, en fait, de jouer déjà là-dessus. On a des publics captifs, mais qui sont des publics très importants, les scolaires, des jeunes, des étudiants à d'autres moments. Et en fait, on peut jouer de ce levier-là. Et l'autre, c'est de jouer de relais dans des communautés ou des collectifs qui pourraient être intéressés, mais qu'on n'est pas capable d'aller chercher spontanément parce que l'info leur arrive pas et qu'il faut donc les prendre par la main. Et c'est donc trouvé par des relais de milieux associatifs, mais ici sur un sujet comme celui-là, par l'intermédiaire des clubs, un office des sports qui va remonter vers tous les clubs sportifs pour trouver les bons relais qui motivent des gens à l'intérieur pour leur faire dire eh ben tiens, je viens avec mes éducateurs. Donc c'est encore plus laborieux parce que là, il faut aller rattraper les gens par la main un par un alors que vous êtes en train d'organiser un événement. Et pour autant, en fait, ce levier-là de fabriquer du réseau avec ces gens proches mais qui sont un peu distants par ailleurs, ça permet en fait de faire venir 20 une première fois puis après 40 ou 50 parce qu'on consolide ces liens là. Je vois pas d'autre recette qui n'a rien d'un miracle parce qu'elle est très laborieuse que celle de fabriquer ces réseaux de gens qu'on attrape et ça sera la même chose sur des questions écologiques, sur des questions pareilles.
Après, peut-être sur la question de l'égalité, enfin, je pense que ça rejoint ce que disait Cécile. Enfin, on parlait du rôle des collectivités de porter un message politique, une intention politique qui mène peut-être ensuite à contraindre. Peut-être que, voilà, avec...
Par exemple, la mairie de Lyon a mis en place donc, ces questions, la dégâts conditionnalité. Et aujourd'hui, voilà, ils ont une politique de diagnostic et de formation qui bouge. qui a jamais été aussi importante. Mais bon, moi, j'avais fait un audit à la mairie de Lyon en 2019, au moment de la Coupe du Monde de féminine de foot, parce que j'ai coordonné une grosse enquête dirigée par le comité d'organisation de cette Coupe du Monde, et on devait voir quelles étaient les politiques menées dans les villes hautes en matière d'égalité. Et donc, on avait fait un gros travail auprès des dirigeants d'entretien pour voir où en étaient les questions d'égalité. Et on avait vu, globalement, le bilan, c'était que la plupart des villes, ils démarraient de rien, ils commençaient à s'intéresser à ce sujet-là. Et à Lyon, il y avait déjà un petit peu des prémices, il y avait déjà une dynamique. Et c'est vrai qu'avec la mairie là, qui est arrivée, avec la gouvernance actuelle, ils ont continué ça en faisant du diagnostic beaucoup plus systématique. C'est-à-dire qu'ils vont regarder dans leur équipement sportif les répartitions hommes-femmes dans les équipements, sur les créneaux horaires. Ils regardent les budgets, la distribution des budgets, comment les associations redistribuent vers les femmes les subventions qu'ils distribuent. Voilà. Et donc, ils ont mis en place, notamment pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles, l'obligation d'avoir des modules, de suivre un module de sensibilisation contre les violences, contre les VSS, pour pouvoir toucher de la subvention publique là-dessus. Et je pense que c'est ça. Et il faut réfléchir, là, avec la mairie, avec le conseil, comment effectivement commencer à mettre des objectifs comme ça un petit peu incontournables, avec par exemple une conférence comme ce soir qui devrait être obligatoire à tous les clubs subventionnés par la ville. Ouais, je pense, contrainte.
Et pour compléter, c'est aussi je vais prendre ma casquette de fonctionnaire du ministère des Sports, l'obligation, c'est aussi ce qui est en train d'être mis en place, par exemple là, dans tous les diplômes d'État. Maintenant, il y a obligation d'avoir un module portant sur la prévention des violences et des discriminations. Et parce qu'en fait, on sait que si c'est pas obligatoire, chaque formation le fera ou pas. Et c'est aussi un moyen de savoir que tous les éducateurs et éducatrices qui vont être formés auront forcément eu ce module-là. Alors maintenant, on est en train de travailler sur comment avoir un peu un regard sur ce qui est fait dans ces modules. Parce qu'après, c'est pareil, c'est aussi qui va les mettre en place. Est-ce que ce sera des personnes qui sont formées, justement, parce que c'est quand même des thématiques. Enfin, n'importe quelle thématique, il faut être formé, mais peut-être encore plus celle-ci, parce que c'est quand même assez spécifique et il y a des enjeux derrière. Et voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas de contraintes, malheureusement, c'est compliqué de mobiliser des personnes. Mais c'est valable aussi, par exemple, on va parler de racisme. Il n'y aura sûrement aucune personne blanche qui ira à une conférence sur le racisme, ou alors quelques-unes. Mais je pense que c'est des choses qu'on observe malheureusement sur pas mal de thématiques. Où, en fait, quand on n'est pas directement concerné, on ne va pas prendre le temps de nous y intéresser. Et après, l'enjeu, c'est aussi de montrer que, en fait, tout le monde est concerné d'une manière ou d'une autre par ces enjeux d'égalité, parce que tout le monde est gagnant. Et c'est comme ça, je pense, qu'il faut aussi le tourner, parce que le risque aussi, c'est justement de faire peur. Et effectivement, il y a une peur de pas mal d'hommes, notamment de perdre de la place par rapport à une situation où on aurait un peu plus d'égalité aussi.
Merci Mona. Est-ce que on a d'autres questions dans l'assistance? Je vois une main se lever.
Tout d'abord, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Moi, j'ai un peu eu le ressenti en écoutant ce que vous disiez, qu'on parlait beaucoup d'essayer d'intégrer les femmes dans le sport, mais peut-être dans une pratique qui reste séparée. Et j'aimerais savoir ce que c'est un petit peu votre opinion sur les leviers pour augmenter la mixité vraiment dans la pratique, et pas en gros la mixité numérique où il y a d'un côté un certain nombre de femmes et d'un autre côté un certain nombre d'hommes qui s'entraînent ensemble pour... dans une discipline. C'est... Et juste pour compléter la question, vous avez parlé de quotas au niveau des... de lois qui mettent des quotas au niveau des conseils d'administration. Est-ce qu'il y a des lois comme ça qui ont été envisagées pour imposer une certaine parité dans les licenciés des fédérations?
Alors, c'est une excellente question. Pour faire simple et assez rapidement, le mouvement sportif s'est structuré autour de la bicatégorisation. Une catégorie femme, une catégorie homme. Et pendant très longtemps, c'était la non-mixité. D'accord ? Donc, il y a très peu de sports et d'épreuves qui pratiquaient la mixité, c'est-à-dire une pratique ensemble, dans un même lieu, un même temps, pour un record commun. On voit cette dynamique être investie en ce moment par le mouvement sportif depuis ces trois dernières Olympiades. Le nombre d'épreuves mixtes augmente. Et donc là, pour la première fois aux Jeux Olympiques, on va avoir 9 disciplines qui vont présenter des épreuves mixtes. Et le défi, le pari du CIO, c'est de dire, bah justement, essayons de déconstruire, de commencer à déconstruire ce qu'on a construit pendant 130 ans et essayons de mettre ensemble, sur un même terrain, un même temps de performance, des femmes et des hommes dans des pratiques de relais, dans des pratiques de mixité, alors organisées. Il ne s'agit pas de faire encore, on n'en est pas encore là, concourir des femmes contre des hommes, mais d'organiser dans le déroulement de l'épreuve des formes de relais. Et au final, les médias sont au même endroit, à un même moment, et les femmes et les hommes sont médiatisés en même temps. Moi, je dis pourquoi pas, essayons. Mais en tant que prof de PS, parce que c'était mon premier métier avant de devenir enseignante-chercheuse, j'ai d'abord été certifiée puis agrégée de PS, je sais que dans le monde de l'éducation physique, la mixité, elle est en place depuis maintenant une trentaine d'années. C'est dans les années 80, en France, que les cours de PS sont devenus mixtes. Avant, ils étaient séparés, comme dans le monde sportif aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on sait de la mixité en EPS? Eh bien, on sait, parce qu'on a beaucoup de recul, il y a énormément de travaux en sciences de l'éducation, en sociologie de l'éducation autour de ça, on sait aujourd'hui que la mixité en EPS n'est pas synonyme de l'égalité. C'est-à-dire qu'on a beau mettre les élèves ensemble dans un cours d'EPS, il y a toujours des rapports de domination qui se jouent, du paternalisme de la part des garçons, des logiques différenciantes de la part des profs, des stéréotypes et des interactions verbales qui dévalorisent les filles et qui glorifient les garçons. Donc la mixité en tant que telle, si elle n'est pas réfléchie, si elle est manipulée, on va dire sans grille, lunette précise, n'est pas un miracle, n'est pas une solution en soi. La mixité, c'est une modalité d'organisation, c'est pas un objectif. Donc, penser du sport mixte, moi je dis pourquoi pas, mais penser du sport mixte de façon réfléchie, en regardant la distribution des rôles, en regardant les logiques en fait qui organisent cette mixité. Je sais pas si je me fais bien comprendre.
Et du coup, est-ce qu'il y a quand même des barèmes différenciés encore en EPS?
Eh oui, bah oui.
Ce qui pose aussi problème dans la bien mixité, sûr. C'est-à-dire que même quand on fait pratiquer des filles et des garçons, on reste sur ce principe bicatégorisé et le principe de l'infériorité physique des filles sur les hommes. Et en fait, ça, c'est aussi un problème. Et en même temps, c'est aussi un levier de réfléchir à la mixité. Parce que moi, par exemple, dans le vélo, ce que je voulais, c'est qu'on arrête de séparer systématiquement les filles et les garçons et qu'on fasse plutôt des groupes de niveau. Parce que notamment chez les jeunes, il y a des fois, il y a des filles qui sont bien plus fortes que des garçons. Et à l'inverse, des garçons qui sont moins forts que des filles. Et là, en fait, actuellement, ça se passe mal pour les deux. Parce que des garçons moins forts que des filles, ça se passe, c'est très compliqué pour eux parce que c'est très mal vu. Et à l'inverse, une fille qui est plus forte qu'un garçon, ça peut être plutôt positif, mais voilà, c'est toujours compliqué. Donc l'idée, ça serait vraiment de faire des groupes de niveau, ce qui en fait d'un point de vue sportif est beaucoup plus logique et beaucoup plus propice aussi au progrès, dans l'entraînement c'est quand même vachement mieux, mais pour l'instant c'est compliqué parce que du coup ça suppose qu'après il y a aussi de la mixité dans les compétitions. Et en fait, c'est comment on repense complètement le système sportif tel qu'il est fait actuellement. Et voilà, mais c'est effectivement vraiment un enjeu. Et après, ce qui a été dit avant, c'est aussi des fois il y a besoin de non-mixité parce que on n'a pas encore supprimé, on va dire, le sexisme. Et du coup, parfois il faut passer par la non-mixité pour que on puisse attirer des femmes dans la pratique sportive.
Éric, je vous laisse compléter.
Juste deux mots parce que le temps file. C'est juste dire aussi qu'on parle là en partie quand même du sport institutionnel, compétitif, organisé. Il y a tout le sport, c'est les stats que j'ai donné au départ et que je veux rappeler. Il y a toute la pratique de loisirs qui peut être à très haut niveau par ailleurs, hein, mais les pratiques libres ou non institutionnalisées. Et là-dedans, on a les deux côtés en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'on a plein de gens qui pratiquent de manière mixte, mais avec tous des effets d'asymétrie qu'on a déjà cités, j'y reviens pas. Mais malgré tout, en fait, quand on augmente numériquement le nombre de pratiquants et de pratiquants et qu'on met plus de facilitateurs à des accès à un moment donné pour se former, être à un niveau où on peut plus s'épanouir, on met quand même en place des situations où, à un moment donné, il y aura plus de facilité à avoir des femmes et des hommes en même temps qui ont à peu près le même niveau. Ça s'appelle l'appariement sélectif en sociologie, mais ça fonctionne et qui vont, par exemple, en escalade, on le voit très bien aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de filles qui grimpent beaucoup mieux que beaucoup d'hommes et en fait, ça fonctionne très bien, mais parce qu'il y a un effet de volume et un effet de formation qui jouent dedans. Ça n'empêche pas qu'il y ait des stéréotypes qui restent dessus, il y a plein de choses à déconstruire, mais là ça fonctionne. Dans l'alpinisme, beaucoup moins, même dans l'escalade, avoir des temps en non mixte, ça peut être aussi utile pour avoir plus facilement de la mixité derrière. Il ne faut surtout pas les opposer.
Une autre question ? Bon, je propose qu'on prenne les deux questions ici et puis après qu'on puisse clôturer. On vous écoute.
Bon, d'abord, merci beaucoup pour la conférence. J'ai la chance d'avoir déjà un avis à la maison régulièrement, mais cette année, j'ai aussi cette chance d'être coprésident avec une fille avec moi du CVL de mon lycée. Et on aimerait pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 faire une grande action où on mobilise tous les lycéens pour faire un grand tournoi entre les classes. Alors forcément, se pose la question pour nous tous au sein du CVL, tous et toutes, de comment mobiliser aussi les filles des classes. Et on a peur de vite se retrouver dans une situation où sur un temps sportif où chaque classe intervient 30 minutes, les garçons de la classe vont mobiliser 29 minutes pour une minute auprès des filles. Alors on cherche des solutions et j'aurais aimé avoir votre avis sur comment essayer d'avancer vers ça. Ouais. Oui, voilà.
CVL, vous pouvez juste nous dire CVL.
Alors le CVL, oui, c'est le Conseil de la vie lycéenne. Donc on s'occupe de l'animation et de ce qu'il y a en dehors des cours. Voilà.
Ça marche, merci. Ah, on prend la deuxième question, ça leur laisse le temps de réfléchir à une réponse. Allez-y.
Alors, merci aussi pour cette conférence, cette table ronde. Je n'ai pas pu écouter toutes les questions. J'ai rattrapé Marion avant qu'elle s'en aille. Désolée. Donc moi, je suis très impliquée sur la question des femmes, de l'égalité. Et j'étais aussi pratiquante de l'équitation. C'est le seul sport olympique où les femmes sont en compétition avec des hommes. C'est aussi le seul sport où il y a beaucoup plus de pratiquantes licenciées que d'hommes, et pour autant en compétition à l'international dans tous les classements, elles sont très minoritaires. Et toute la structure fait que elles se professionnalisent beaucoup moins que les hommes. Est-ce que vous êtes aussi allé étudier ce sport-là qui est un peu particulier ? Parce que là, on a souvent dit que c'était le cheval, mais en fait, une femme ne monte absolument pas comme un homme. Et pourquoi ? Pourquoi elles n'arrivent pas ? Il y en a qui arrivent à des places olympiques, mais elles sont beaucoup moins nombreuses. Et la structure fait qu'elles ont du mal à accéder.
Oui. Juste dire que là-dessus, il y a une collègue qui s'appelle Fanny Lemanque, qui a beaucoup travaillé là-dessus, y compris sur la professionnalisation. Et donc les barrières à la professionnalisation, ou comment cette professionnalisation elle va favoriser les hommes plutôt que les femmes. Voilà. Donc, je pourrais vous donner le nom derrière. Vous trouverez vraiment la matière là dans les travaux de Fanny.
Du coup, toujours sur cette même question, après, c'est vrai que l'équitation, moi, je le prenais souvent en exemple parce que je trouve que c'est très parlant, notamment quand on regarde les Jeux Olympiques, la composition de l'équipe de France des dernières Olympiades. Et c'est valable, je voulais donner l'exemple aussi tout à l'heure, sur les fédérations olympiques. Actuellement, on a deux femmes présidentes. Et en fait, des fédérations où on est à peu près à 90% de femmes parmi les licenciés sont présidées par des hommes. Donc, c'est le cas de l'équitation, de la gymnastique aussi. Et c'est assez parlant parce qu'effectivement, que ce soit... Enfin, moi, j'avais travaillé notamment sur les travaux de Fanny Lemanque, donc par rapport à ça, où elle montrait que... à haut niveau, en fait, même si à la base on a 90% de femmes, en fait, ça s'inverse. Et idem pour tout ce qui va être les fonctions d'encadrement, d'entraînement et du coup de dirigeante. Donc ça, c'est un élément. En fait, ce qu'elle montre très très rapidement, c'est qu'il y a des logiques de domination masculine en fait qui se mettent en place après. Et alors du coup, je suis pas spécialiste de l'équitation, mais elle expliquait vraiment, au niveau de comment ça s'organise, au niveau des chevaux, etc., que il y a beaucoup d'enjeux. Voilà, c'est ça, exactement. Et c'est vrai que ça, je trouve, c'est hyper intéressant parce que c'est un sport mixte, mais pour autant, il suffit de regarder les jeux à la télé tous les 4 ans pour s'apercevoir que la mixité ne fait pas tout. Et donc, c'est aussi une question... du coup, je réponds pas trop à votre question, mais c'est un enjeu assez intéressant par rapport à ça, je pense. Et du coup, pour la question sur les Olympiades, Je pense que la contrainte, entre guillemets, elle est un peu obligatoire pour éviter de se retrouver dans ces problèmes-là. Donc c'est vrai que Cécile, elle me parlait les relais qu'on retrouve actuellement dans pas mal de disciplines maintenant, c'est plutôt pas mal parce que forcément, bah, je prends l'exemple du cyclisme où nous on a ça depuis 2-3 ans. Du coup, c'est des relais sur le contre-la-montre. Donc on a 3 garçons, 3 filles. Donc les 3 garçons partent en premier et ensuite ils passent le relais aux 3 filles. Donc c'est sous une forme d'un contre-la-montre par équipe. Et il y a 3 ans, ça a bien marché parce que l'équipe qui est championne de France, en fait, les garçons chutent et donc perdent beaucoup de temps. Et c'est grâce aux filles que l'équipe de Bretagne, en fait, va gagner. Donc c'est hyper intéressant par rapport à ça. Et du coup, par rapport au relais, l'idée, par exemple, peut-être de faire un binôme avec obligatoirement une fille et un garçon. Après, je ne sais pas exactement comment structureront les Olympiades, mais je pense que c'est peut-être ce qui peut permettre justement d'éviter d'avoir... un déséquilibre trop important du côté des garçons par rapport à ça.
Une autre idée, c'est de faire péter la question compétitive, en fait. Voilà. Il y a l'idée d'une course, d'une concurrence, d'une compétition qui est bien, hein, c'est sympa. Mais c'est de faire péter cette dimension-là et d'être dans quelque chose qui est collaboratif. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a aussi une partie des barrières qui peuvent tomber plus facilement et on peut faire un événement ludo-sportif dans lequel on peut trouver d'autres leviers qui permettent de partager sur quelque chose qui est sur le fun, sur quelque chose qui est sur l'initiation, sur quelque chose qui est sur la provoque, y compris sur les questions de genre. Voilà. Et là, du coup, il y a d'autres menus, mais voilà, il faut être un peu plus inventif, mais ça peut être sympa ou funky.
On vous laissera les coordonnées d'Éric pour co-organiser votre événement. Ouais.
Et une troisième petite idée, c'est l'ONG Play International qui a essayé de mettre en place justement des pratiques mixtes pour, dans les quartiers populaires, inciter les filles et les garçons à pratiquer ensemble. Et on a une doctorante du Elvis qui a travaillé avec nous là-dessus. Et parmi les éléments de levier que l'association, l'ONG, a mis en place, c'est effectivement de créer des nouvelles pratiques, donc faire ce que disait Eric, en mobilisant des qualités physiques variées aussi. Donc il y avait de l'alternance entre des efforts de type force, vitesse, qui valorisait plutôt les garçons, mais aussi des épreuves de type habileté, précision, qui, du fait des socialisations, ont plutôt tendance à valoriser les filles, à part qu'il y avait un jeu d'alternance qui faisait que les garçons et les filles devaient passer dans les deux. Et donc les garçons, à certains moments, pouvaient se retrouver en difficulté à un endroit, mais pas dans l'autre, et inversement. Et en fait, c'est l'alternance des rôles et toujours en binôme mixte, qui faisait qu'au final, on gagnait un certain nombre de points. Donc là, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais c'est soit effectivement jouer le jeu du monde fédéral aujourd'hui et pratiquer des relais ou pratiquer des contraintes de binôme, soit effectivement jouer le jeu de la créativité en alternant comme ça de nouveaux modes de fonctionnement.
On vous laissera aussi les coordonnées de Cécile Autocalier.
La possibilité, donc il faut les éduquer à ça. Et les éduquer, c'est de leur dire.
Donc l'Olympiade, il faut qu'elle démarre par une conf.
Ah mais complètement.
Obligatoire.
Obligatoire pour
avoir
pour
du monde
et
pour remplir la salle. Je vous propose qu'on s'arrête là. Ça va bientôt être les hymnes. Non, je plaisante. un grand merci à la Galerie Eureka et à la ville de Chambéry pour l'organisation de cette table ronde. Un grand merci à nos invités, Marion Poitvin qui a dû repartir, mais en tout cas, on la salue. Merci Cécile Autogali, ambassadrice de cette fête de la science, je le rappelle. Merci Mona Pantel et Éric Boutrois pour votre participation et votre vision d'expert et d'experte sur cette question de la pratique du sport par les femmes. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Et merci à toi Aurélie pour cette menée de main de maître et brillante.